Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette libre antenne du samedi soir pour 2 heures de partage et de confidences. 2 heures pendant lesquelles vous pouvez prendre la parole en appelant simplement le standard d'Europe 1 au 3921. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir, comme chaque week-end. Jacques Salomé dit que l'essentiel de notre vie ne se joue pas dans le passé, ni dans l'avenir, mais dans l'infime de chaque instant présent, accueilli comme une part d'éternité. Je vous souhaite donc de pouvoir vivre pleinement au présent. Et le présent, c'est ici et maintenant, c'est ce soir sur la libre antenne. Un présent pour se poser, réfléchir à son passé, surtout se construire peut-être un nouvel avenir. 3921, donc, si vous voulez parler de vous, de votre vie, raconter vos expériences, partager vos questionnements. Et pour participer par SMS, 73921, en commençant bien par le mot « nuit ». Vos SMS pour entrer en contact avec quelqu'un qui passe à l'antenne, pour apporter un soutien, une idée, partager aussi une expérience. À la réalisation ce soir, j'ai le plaisir de travailler avec Nicolas Godet et la Libre Antenne. Ça commence maintenant.
Europe 1, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Et ce soir, on va ouvrir cette Libre Antenne avec Aurore qui a bien du mal à gérer sa relation particulière avec son père. Elle nous en parle dans un tout petit instant.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Donc cette libre antenne avec Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci, c'est gentil.
Bon, je suis ravie de vous accueillir. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire sur ce qui se passe un peu dans votre vie là en ce moment. Racontez-moi.
Alors en fait, moi depuis que je suis née, j'ai toujours vu mon père un peu nerveux, c'est-à-dire s'énerver pour pas grand-chose, vraiment des trucs vraiment banaux. Même avec ma mère, et après ma mère est décédée en 2013, donc le 15 juin 2013 ma mère est décédée, et après il a reporté ses nerfs sur moi en fait, et donc ça se passait tellement mal qu'on m'a placée à l'internat de mon lycée. À l'époque j'étais en section littéraire. Donc,
quand vous dites on, qui est on?
En fait ma mère travaillait au CEA Cadarache près d'Aix-en-Provence. Et l'assistante sociale qui s'est occupée de nous, après avec mon papa, m'a placée à l'internat de mon lycée parce que mon père était trop nerveux pour moi, en fait. Et le problème, c'est que pour faire mes devoirs, c'était vraiment la galère. Je ne pouvais pas les faire correctement. C'était vraiment... c'était impossible de les faire comme je voulais. Donc, voilà.
Quand vous dites nerveux, ça se traduisait comment? C'était des cris ou est-ce que ça allait jusqu'à des violences physiques?
Non, c'est jamais allé aux violences physiques. Par contre, ça prend des proportions vraiment. Par exemple, moi, j'ai vu ma mère mourir, j'ai vu toute la scène. Et 2 mois après, devant l'assistante sociale du CEA, par exemple, il a parlé de suicide. Alors que c'est pas vrai, il veut pas se suicider. C'est juste pour faire peur, en fait, il dit ça. Mais le truc, c'est que moi, j'ai vu ma mère mourir 2 mois avant. C'est un peu violent.
C'est insupportable pour vous d'entendre ça, évidemment.
Voilà, mais quand je lui dis, il dit non mais c'est pas vrai, tu sais que je vais pas le faire et tout. Je dis oui d'accord, mais moi j'ai quand même vu ma mère mourir. Tu me parles de ça 2 mois après, je trouve ça un peu violent quoi. Enfin,
c'est une violence psychologique bien évidemment. Avant qu'on aille plus loin, Aurore, que je comprenne votre histoire, qu'est-ce qui lui est arrivé à votre maman?
Déjà elle avait des problèmes de jambes, donc elle avait du mal à marcher. Et au mois de mai 2013, je sais pas ce qui lui a pris, elle s'est vraiment bourrée. Alors que c'est pas du tout son habitude, c'était pas son habitude du tout, même elle buvait quasiment jamais, ou juste pour Noël, au jour de l'an, un verre de vin et c'était tout. Là elle s'était bourrée au punch, je sais pas si on dit punch ou punch, mais enfin bref. Et en fait elle a eu des vertiges et tout, après ça allait mieux, mais par contre elle mangeait de moins en moins. Et le 5 juin 2013, par exemple, c'est une amie de la famille qui m'a accompagnée au lycée parce qu'elle était vraiment malade, mais elle pouvait même pas tenir debout. Et plus ça allait, plus elle mangeait moins, elle buvait pratiquement pas ou elle vomissait tout. Et elle dormait quasiment plus. Et bon, bah, après, ils disent qu'elle est morte d'un AVC, mais moi, je pense qu'elle faisait vraiment une dépression.
Mais vous pensez ça que c'était un épuisement à la fois nerveux et physique?
Moi, c'est mon intime conviction. Les médecins disent que c'est un AVC. Moi, je pense que c'est sur le long terme. En fait, c'est pas 10 jours.
Plus profond que ça, vous pensez?
Oui, je pense, parce que elle pleurait tout le temps et elle avait dit à cette amie-là qui nous connaît donc depuis très longtemps qu'elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus des cris de mon père, de ses nerfs, en fait. Elle l'avait dit à mon amie Serna plus tard, l'amie qui nous connaît. Mais moi, mon intime conviction, c'est que bon, elle s'est laissée mourir, quoi, parce qu'elle en pouvait plus, psychologiquement parlant, elle en pouvait plus. Bon.
Et donc, à ce moment-là, vous avez été placé, on vous a orienté vers l'internat pour vous protéger de tout ça. Comment vous l'avez vécu, vous, ça?
L'internat?
Oui, comme une libération plutôt comme une contrainte?
Non, en fait, bah, au départ, c'est vrai que ça me stressait un peu parce que de mon côté, j'étais un peu harcelée à l'école. Mais au final, en fait, ça m'a vraiment aidée parce que finalement, j'ai su me défendre contre le harcèlement. Mmh. Et en même temps, j'étais moi-même, en fait. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Psychologiquement parlant, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Ça m'a aidée à me reconstruire et voilà.
Donc ça, c'était plutôt une étape positive pour vous?
Oui, franchement, oui.
Et alors aujourd'hui, vous en êtes où?
Alors aujourd'hui, le problème, c'est que bon, les assistantes sociales ne s'occupent plus trop de moi parce que bah, déjà, je suis majeure. Et en plus, mon père les rembarre à chaque fois. Du coup, en fait, il m'isole un peu de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, j'ai fait mes études et tout. C'est pas un problème. J'ai des amis, j'ai tout ce qu'il faut. Mais par contre, c'est vrai que sur le week-end, c'est impossible pour moi de sortir le week-end. Je sors qu'en semaine. Enfin, par exemple, je vais pour les cours et puis je reste une heure ou deux en plus pour voir mes amis et c'est tout. Donc, voilà.
Vous êtes encore étudiante?
Oui.
Mais plus interne?
Non, parce que le problème, c'est que je dépends financièrement de mon père, en fait. C'est ça, le problème.
Ah oui. Il n'a pas voulu continuer à payer pour l'internat, c'est ça? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une manière de vous garder plus proche?
C'est une manière de me garder plus proche parce que pendant ma première année de fac, il avait continué à payer normalement. Mais le problème, c'est que moi, j'avais un problème, c'est que à chaque fois qu'il me téléphonait, par exemple, je vais parler pendant 2 heures. Alors, pour faire les devoirs, c'était très compliqué. C'est bien ça mon problème.
Ouais. Voilà. En fait, il se repose sur vous alors que ça devrait être l'inverse. Quel âge a-t-il, ce papa?
Eh ben, alors en fait, il m'a eu très tard, donc il a 70 ans maintenant. Et il m'a eu vraiment très tard avec ma mère. Donc,
et vous avez quel âge?
Moi, je vais avoir 22 ans au mois de février. Mmh. Vous voyez?
Pas de frère, pas de sœur?
Non, je suis fille unique. Oui, je suis vraiment fille unique.
C'est vous qui portez tout sur les épaules, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc bon, après, voilà, bon, j'ai quand même mes amis pour me distraire. Je fais de la musique. Enfin, voilà, c'est. Mais par exemple, un truc qui s'est passé l'année dernière, juste le jour où ma mère, où c'était les 5 ans où ma mère est décédée, ma mère a un piano. Et moi, je voudrais le garder parce que c'est un souvenir de ma mère. Et bien, mon père ne veut pas, par exemple. Juste ça, vous voyez.
Il vous a dit pour quelle raison?
Ah bah, parce que j'en sais pas. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que pour le moment, c'est trop tôt pour moi. J'ai dit, pour moi, ma mère, elle m'a appris à faire du piano, elle m'a initiée. Le problème, c'est que voilà, pour le moment, c'est trop tôt. Je me suis remis à la flûte. Déjà, c'est pas mal. Je voudrais y aller petit à petit, en fait. C'est simplement ça. Mais ça, elle ne veut pas le comprendre.
Quel est votre projet de vie? Vous faites des études qui sont supposées durer combien de temps et pour faire quoi après?
Alors, en fait, je me suis un peu réorientée. Au départ, je faisais licence d'espagnol. Et puis, comme avec mes amis, je conseille beaucoup, je me suis tournée vers la psychologie. Ah. Voilà.
Intéressant. Et vous souhaitez en faire quoi après?
Bah, après, être psychologue, par exemple, ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, pouvoir aider les gens.
Dans l'accompagnement.
Voilà, c'est ça. Parce que bon, c'est vrai que moi, je me suis un peu reconstruite toute seule, mais j'y suis arrivée, vous voyez. Donc, voilà, juste que les gens, faut qu'ils croient en eux, en fait. Rien n'est impossible, en fait. C'est ce que je me suis dit
ça,
au fur et à mesure.
Ça, c'est un beau message. Donc, concrètement, il vous reste combien de temps d'études? Si vous partez en psycho, il y en a au moins pour 5 ans.
Oui, il me reste 3 ans d'études. Et donc après, ben, je verrai, mais j'ai encore 3 ans d'études à faire. Voilà.
Donc qu'est-ce qui est au quotidien le plus difficile à supporter là, à la maison?
Bah, c'est-à-dire que déjà là en plus, bon lundi il est parti à l'hôpital parce que il a fait un coma et après on l'a placé dans le coma artificiel parce que il a une pneumopathie bilatérale. Bon, mais en fait c'est surtout comment gérer ces crises en fait, parce que le problème c'est que bon, moi on me dit de pas répondre, donc moi je réponds pas en général, je laisse passer. Mais le problème c'est qu'il me force à répondre. C'est bien ça mon problème, c'est qu'il me force à répondre à des choses auxquelles je ne peux même pas répondre. C'est ça qui est un peu difficile à faire en fait.
Comme quoi par exemple?
Mais
à quoi vous ne pouvez pas répondre?
Bah, par exemple, il me demande pourquoi j'ai pas appelé ici ou là, et moi j'ai pas eu le temps en fait, c'est tout, faut que je fasse tout, donc le problème c'est que j'ai pas le temps.
J'allais vous poser la question, comment se gère la maison? Est-ce que du coup vous êtes transformée vous en maîtresse de maison? Les courses, la vaisselle,
ouais.
Le ménage,
les... c'est un peu ça, donc ouais. Voilà, le problème c'est que c'est vrai que je fais beaucoup d'heures pour j'ai pas beaucoup de temps pour moi en fait.
Le problème c'est que vous n'êtes pas à votre place, Aurore. C'est que votre papa, pour une raison qui lui est propre, probablement parce qu'il a vécu aussi des blessures, des souffrances, des deuils qui ne sont pas, passés, il vous fait jouer un rôle qui n'est pas le vôtre.
Bah, oui, c'est ce que je lui ai dit plusieurs fois, mais bon, voilà, il est un peu... Enfin, il ne comprend pas trop, c'est ça le problème, c'est que je n'arrive pas à lui faire comprendre.
Il y a deux choses dans votre histoire. Il y a d'abord ça, qui me paraît extrêmement important, ce n'est pas votre rôle. Que vous habitiez chez lui parce que vous êtes étudiante, ça c'est normal. Soit il y a deux options dans ces cas-là. Soit vous trouvez un petit job à côté et vous prenez une coloc avec des jeunes de votre âge, ou vous trouvez une chambre d'étudiante et vous vous libérez de ça. Soit vous êtes dépendante de lui financièrement et vous acceptez de vivre chez lui. Vivre chez lui, c'est partager les choses, mais vous n'êtes pas la mère ou la femme de la maison. C'est ça que je veux dire, vous comprenez?
Oui.
Vous pouvez pas prendre tout ça en charge parce qu'effectivement c'est vous et vos études qui vont en pâtir.
Ben, oui, c'est ça, c'est ce que je lui ai dit. Après, prendre un appart, ça va être compliqué parce que le problème, c'est que j'ai des problèmes de vue. Donc, pour trouver un job, des fois, c'est compliqué aussi.
Ah, d'accord. Voilà. Quel type de problème de vue?
J'ai une anhyrésie congénitale, c'est le fait de ne pas avoir d'iris. Alors, avec la lumière, des fois, c'est compliqué. C'est un problème avec la lumière.
D'accord, mais est-ce qu'il y a quand même des petits boulots que vous pourriez faire? Quel est votre domaine de compétence, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses, malgré ce souci-là, que vous pouvez faire? Avec la voix, avec, je ne sais pas, enregistrer des choses. Il y a beaucoup de pistes possibles.
En fait, c'est ce que j'avais pensé. Alors, j'étais en train de chercher, mais bon, c'est vrai que j'ai été un peu toute seule. Donc, en plus, là, comme il est à l'hôpital, il faut que je gère tout à la maison aussi. Donc, c'est un peu compliqué aussi, quoi.
Est-ce qu'il y a aucune famille autour de vous? Vous n'avez pas de tante, d'oncle, de grands-parents?
J'ai une grand-mère maternelle qui ne me parle plus du tout, qui me déteste.
Pourquoi?
Voilà. Parce qu'elle me croit responsable de la mort de ma mère, en fait. Et comme mon père lui a dit des choses exécrables sur moi, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais apparemment, elle me déteste.
Eh bien, dis donc, vous êtes une résiliente, Aurore. Vous avez déjà travaillé ça en psycho, la résilience?
Non, pas vrai.
Ben vous allez
pas
comprendre, c'est quelqu'un qui est toujours debout malgré tout, on va dire, pour simplifier. Hein.
Ok.
Qui prend des coups à l'extérieur, mais qui est toujours debout à l'intérieur.
Bah écoutez, faut bien, parce que sinon, franchement, ce sera impossible. Quoi.
Mais en même temps, ça ne m'étonne pas que vous ayez envie de faire des études de psycho, parce que vous êtes dans un cas où il va falloir tous les jours gérer quelque chose sur le plan psychologique, c'est le caractère de ce papa. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà.
Ça va durer longtemps, cette hospitalisation, vous savez?
Je pense qu'il va encore y être au moins la semaine prochaine.
Oui, d'accord. Donc, c'est pas du long terme. Il va pas être parti pendant des mois, quoi.
Non, je pense pas, non.
Est-ce que c'est comme une pause un peu pour vous? Vous vous sentez plus libre, plus posé?
Ah oui, là, c'est vraiment comme une pause, oui. C'est dommage de dire ça, parce que j'aime quand même mon père. Ça reste mon père, mais... C'est vrai que là, je souffle un peu, quoi.
L'amour n'a rien à voir là-dedans, bien sûr. Je suppose que lui aussi vous aime et que vous l'aimerez toujours. Mais il y a un problème de place et de rôle là dans votre histoire. Il a pas refait sa vie, j'imagine, depuis la mort de votre maman.
Ah bah, il a essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché, donc oui. Voilà.
C'est comme s'il s'accrochait à vous pour prendre une place qui est restée vide, mais qui n'est pas la vôtre.
Oui, c'est ça.
Avec Emprime, ça c'est le premier problème. Avec Emprime, un caractère visiblement compliqué, parce qu'il continue à s'énerver contre vous, même quand vous êtes en train de vous occuper de tout comme
ça. Alors là, vous inquiétez pas qu'il s'énerve contre moi. Il hésite pas. C'est ça le problème. C'est qu'il hésite vraiment pas. C'est vrai que je lui dis, mais calme-toi. Des fois, c'est pour rien en plus. Donc, bon.
Qu'est-ce qui peut le calmer? Comment vous y arrivez? Comment vous sortez de ces périodes de tension comme ça?
Ah ben, je le laisse se calmer, c'est tout. C'est le seul moyen que j'ai trouvé.
Vous arrivez à ne pas surenchérir et attendre que la vague passe, quoi?
Ah ben, en général, je vais dans une autre pièce, je fais autre chose, et puis après, je sais pas, une demi-heure après, je reviens et c'est calmé. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça, mais voilà.
Mais quelle perte d'énergie et quel épuisement nerveux, quoi, pour vous?
Ben oui, mais des fois, je dis, mais c'est pour rien que tu t'énerves, tu vois, c'est rien, c'est pas grave. Et de toute façon, ça le calme pas quand je dis ça, ça empire les choses. Donc bon, après, je laisse courir, quoi, parce que c'est pas possible, sinon.
Vous me parliez tout à l'heure d'une assistante sociale qui était venue vous aider quand votre maman est décédée. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec elle?
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non.
Pourquoi?
Parce que bah déjà, elle avait passé le relais à d'autres assistantes sociales qui sont sur Manos, donc la ville où on habite. Mais le problème, c'est que comme il s'est énervé aussi contre elle, et bah, ils ne viennent plus non plus. Voilà.
Aujourd'hui, vous êtes majeure, elle n'est pas obligée de venir chez vous et votre père n'est pas obligé de le savoir, ni d'intervenir.
Non, alors du coup, moi j'avais repris contact avec elle, mais on dit, non mais écoutez, votre père est vraiment impossible à gérer, on s'occupe pas de vous. Voilà ce qu'ils m'ont dit, donc bon bah du coup, j'ai fait, par exemple, mon dossier de bourse, j'ai fait toute seule, j'y suis arrivée, j'ai fait toute seule, mais voilà, ça reste quelque chose que je fais toute seule.
Oui, c'est ce que je vous dis. Le bon côté de la chose, c'est qu'effectivement, vous apprenez vraiment à vous débrouiller, vous avez une maturité qui est forcément bien supérieure aux jeunes filles de votre âge. Mais ça serait quand même bien que vous trouviez de l'aide. Est-ce que vous m'avez parlé d'amis tout à l'heure. Est-ce que vous avez au moins quelques amis sur qui vous pouvez vraiment compter?
Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, mes amis. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Vous leur parlez? Elles sont au courant de tout ça?
J'ai une amie à qui j'ai parlé de tout ça, mais vraiment tout, oui, et ça, elle est au courant. Il y en a une autre, bah, elle me connaît depuis toute petite, donc elle est parfaitement au courant de la situation. Après, les autres, ils sont au courant sans plus, mais ils sont au courant, oui.
Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, aujourd'hui? Quel serait votre scénario idéal? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre plutôt que cette situation-là?
Bah, pouvoir être moi-même déjà à la maison, parce que là, en fait, quand je vous parle, vous voyez, je suis moi-même, mais par contre, quand je suis à la maison, je ne suis pas du tout moi-même. Enfin, quand je suis avec mon père, je ne suis pas du tout moi-même. Je suis vraiment quelqu'un de très, très renfermé sur moi-même quand je suis avec lui, en fait. Je dis rien, c'est...
Vous êtes en mode escargot, je rentre dans ma coquille, j'attends que la tempête passe.
Oui, mais même quand il n'est pas énervé, je dis rien, quoi. C'est vraiment le strict minimum, c'est quasiment rien. Donc, bon, c'est vraiment... oui, bonjour, au revoir, enfin, le truc vraiment... Le strict minimum, quoi.
Est-ce que c'était comme ça déjà quand votre maman était là? Est-ce que même dans les périodes de calme, il n'y avait aucun dialogue comme ça?
Moi, de toute façon, le problème, c'est que j'avais aucun dialogue ni avec l'un ni avec l'autre. Parce que ma mère était très dure, comme mon père était très dur avec elle. Elle reportait tout sur moi, en fait. Et du coup, c'était vraiment très, très dur. Le harcèlement, quand je lui en ai parlé, parce que oui, j'étais harcelée à l'école par une fille. Il y a un garçon au primaire et après une fille au collège. Quand je lui en ai parlé, une fois, je me suis fait punir à cause du garçon qui m'avait, par contre, pour le coup, qui m'avait frappé. Du coup, moi, je m'étais défendue. Et elle n'a rien voulu savoir. Ma mère, elle m'a engueulée comme si c'était normal, quoi. Mais j'ai dit, mais maman, moi, j'ai rien fait. On m'a frappée, je me suis défendue. Du coup, à partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis plus du tout défendue. Ça a recommencé au collège. C'est pareil. Elle m'a engueulée parce que je me faisais harceler. Et donc, en fait, au final, j'étais un peu toute seule, quoi. Donc, j'ai toujours vécu en mode, tais-toi, et puis c'est tout. Donc, voilà, ça a été ça, ma vie, toujours garder le silence. Voilà.
Oui, mais j'ai bien l'impression que c'est pas ça que vous avez envie de continuer à vivre.
Ben non, parce que finalement, à mes amis, je leur ai raconté si c'était passé avec mon père et tout. Mais c'est vrai qu'à la maison, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je suis pas moi-même.
Et il y a pas chez vos amis une maman avec qui vous auriez une relation un peu différente, avec qui vous pourriez parler? Vous n'êtes pas invitée, par exemple, chez votre meilleure amie?
Si, le problème, c'est qu'elle habite très loin de chez moi. Mais on se parle vraiment souvent. Et oui, c'est un peu comme une maman, justement. C'est un peu comme une maman de cœur, en fait, finalement.
C'est important, parce que... ça. Je pense qu'il manque une femme près de vous qui soit là pour vous écouter, pour vous épauler, pour vous conseiller, pour vous consoler aussi.
C'est-à-dire que moi, au départ, quand je lui ai parlé, on se parlait comme ça, et c'est de fil en aiguille dans la conversation que là, je lui ai dit ce qui se passait avec mon père. Alors elle m'a écoutée, elle m'a donné des conseils qui ont marché finalement, parce que ça a un peu amélioré la situation, mais c'est vrai que là, par exemple, il va rentrer de l'hôpital, je ne sais pas quand, mais je ne sais pas comment ça va se passer après. C'est le après qui me...
Après, ça risque d'être comme avant, parce que rien n'a changé, en fait.
Voilà, c'est ça.
Donc, est-ce qu'il travaille... Non, il ne travaille plus, forcément, votre papa.
Non, il travaille plus.
Donc, grosso modo, il est là toute la journée, enfin, beaucoup.
Oui.
Ouais. Et vous, par contre, vous êtes en cours?
Moi, je suis en cours.
Vous êtes en cours la journée, par contre, tous les soirs, c'est avec lui. Vous dînez avec lui?
Je ne dîne pas avec lui parce que je rentre trop tard, mais par contre, avant de me coucher, je reste un peu avec lui, je ne sais pas, 5-10 minutes, mais des fois, ça part vraiment dans tous les sens, quoi. Alors, bon, c'est un peu. Enfin, des fois, c'est un peu fatigant, quoi.
Est-ce que vous avez tenté calmement de lui parler? De sortir de votre coquille pour lui parler, lui dire que ça va pas.
J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais le problème, c'est que quand on lui reproche quelque chose, il commence à crier.
C'est pour ça, Aurore, que je n'ai pas parlé de reproche, parce que ça, c'est humain. Quand on commence une phrase en disant à quelqu'un « tu es comme ça » ou « tu as fait ça », c'est le meilleur moyen de se prendre une porte.
Non, mais en fait, parce que des fois, je lui demande pourquoi tu t'énerves comme ça.
C'est pour ça que je préférais que vous lui disiez « quand tu es comme ça, moi, je me sens mal. » Parce que dire à quelqu'un « pourquoi tu t'énerves ?» c'est quand même un reproche. Et 9 fois sur 10, vous verrez ça si vous faites ce métier, le tu. Quand on dit à quelqu'un « tu es comme ça, tu m'as fait ça, pourquoi t'es comme si ?» c'est une phrase agressive. D'accord. Et donc immédiatement, le réflexe de protection, c'est « ok, je surenchéris, soit je claque la porte, soit je vais être encore plus désagréable derrière. » Mais si vous dites très calmement, dans des moments de calme, « tu sais, moi, je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression que je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place de fille. J'ai besoin de ça. Okay. Parler de vous et de vos besoins, ça désamorce une agressivité en face. Et ça permet quand même quelquefois d'ouvrir une meilleure écoute. Il ne doit pas se sentir agressé parce qu'en plus, je pense que votre papa, s'il se comporte comme ça, c'est qu'il va mal, tout simplement. C'est évident que quelqu'un qui va bien ne se comporte pas comme ça. Donc, il cache par cette colère, cette agressivité, cette façon de se comporter, beaucoup de souffrance, j'imagine.
Oui, parce qu'il est vraiment comme ça avec tout le monde. Je vous dis, c'est pas qu'avec moi, avec les assistantes sociales, avec tout le monde, quoi.
Vous connaissez son histoire, ce papa-là? Son enfance, ses parents, tout ça?
Je sais qu'avec ses parents, ils s'entendaient très bien, parce que moi, j'ai connu ma grand-mère paternelle un petit peu. Elle était très gentille, c'était quelqu'un vraiment très gentil. Il a été élevé avec sa cousine. Après, c'est vrai que je sais qu'il souffre comme moi, enfin, parce qu'il a comme moi ce problème de vue, en fait. Ça, je sais qu'il souffre de ça. Mais le problème, c'est que moi, je suis comme ça aussi, donc je peux pas.
Est-ce que lui s'est déjà fait aider, ne serait-ce que déjà pour le deuil de sa femme, votre maman?
Du tout.
Non.
Ah, pas du tout, mais alors lui, il est vraiment anti-psychologue, hein, ça je vous le dis tout de suite. Mmh. Alors là, les psychologues, ils détestent ça, quoi.
Oui, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils comprennent que cette colère, non seulement elle vous fait du mal à vous, mais c'est à lui qu'elle va faire de plus en plus de mal. Ça doit le ronger aussi, cette façon d'être en permanence.
Je l'ai déjà demandé plusieurs fois, oui, ça l'énerve un peu. Il me dit, oui, je suis anxieux, ça me dit.
Oui, forcément.
Plusieurs fois.
Et l'anxiété, la colère, fois. Tout ça sont des émotions excessivement négatives qui font du mal aux autres, certes, mais d'abord à soi. Et peut-être pouvez-vous lui dire une fois de plus, si vous dites à quelqu'un « tu vas mal, va voir un psy », vous avez 9 chances sur 10 que la personne vous dise « mais pas du tout, j'en ai pas besoin ».
Non,
ça, c'est
non,
sûr
non, j'ai jamais dit ça comme ça, mais j'ai dit que peut-être que ce serait bien qu'il se fasse aider. Mm. Mais c'est là qu'il monte vraiment sur ses grands chevaux en disant non, tu sais ce que je pense des psychologues et tout. Bon.
Expliquez-lui que les psychologues, ça n'existe pas. Il n'y a pas une catégorie de psychologues, il y en a des centaines. Il y a autant de gens compétents dans ce domaine-là qu'il y a des incompétents partout. Ça n'existe pas, ça. Les psys, les machins, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il trouve une thérapeute qui lui convienne et qui soit bien. Il n'y a pas de généralité dans ce domaine-là, comme il n'y en a nulle part d'ailleurs. Ça n'a aucun sens.
Le problème, c'est
il ferme la porte.
Oui, problème, c'est qu'il il a fait une généralité des psychologues ou des psys en tout genre. C'est ça le...
Vous êtes sûr qu'il n'a pas déjà eu une mauvaise expérience avec un thérapeute?
Ah si, je sais qu'il a déjà eu une mauvaise expérience avec un psychologue. Oui, ça, je le sais. Mais bon.
D'accord, donc vous pouvez peut-être aussi lui expliquer doucement un jour où il est un peu plus ouvert. Que c'est pas parce qu'une fois il est tombé sur quelqu'un qui ne lui a pas convenu qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui pourrait lui faire du bien. Parce que vous pouvez lui dire petit à petit, tu sais papa, moi je vais, là pour l'instant je suis là, c'est compliqué pour moi d'absorber cette colère, je pense que c'est pas mon rôle et en plus ça me fait du mal, mais dans 2-3 ans je serai plus là. Et cette colère c'est contre toi qu'elle va se retourner. Donc ça serait vraiment bien que tu puisses commencer à te faire un travail là-dessus pour te libérer toi. Parce que je ne serais pas toujours là pour absorber cette colère-là.
Oui, pourquoi pas.
Essayez des discours qui sont des discours plus constructifs et qui vous permettent aussi vous de vous positionner par rapport à lui. De commencer à prendre une place d'adulte.
Oui.
Et plus de petite fille qui est tout le temps dans la peur parce que vous êtes en train de devenir une adulte. Et plus vite que les autres, parce que vous n'avez pas cette vie de dilettante qu'ont certains ados. Vous n'avez pas cette opportunité-là. Voilà, la vie, le destin vous a mis sur un chemin où vous êtes obligé de prendre un rôle d'adulte très rapidement. Une fois de plus...
Ah, mais j'ai l'impression de ne pas avoir eu d'adolescence. Oui,
mais
vous
voyez le bon côté des choses, vous avez une maturité exceptionnelle. Je pense que si vous continuez dans la thérapie, vous serez probablement une excellente thérapeute. Parce que quand on vit tout ça, quand on vit tout ça, finalement, on est confronté à tellement de choses et à tellement de réflexions que ça va vous ouvrir un beau chemin, ça. Et donc, petit à petit, prenez cette place d'adulte face à votre père. Vous n'êtes plus la petite fille qui doit rentrer dans sa coquille. Vous savez, c'est comme quand on est enfant avec le pot de confiture et tout en haut du placard, on se dit « oh là là, j'y arriverai jamais, il est beaucoup trop haut ». Et puis un jour, on est grand, il n'y a qu'à tendre le bras pour prendre le pot de confiture, mais sauf qu'on n'ose pas parce qu'on a toujours l'impression qu'il est beaucoup trop haut. Mais non, vous êtes au niveau du pot de confiture, maintenant tendez le bras et prenez-le, le pot de confiture, il est à vous. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est une transition et c'est vrai qu'elle se fait tout en douceur quand on commence à rentrer dans le monde des adultes. Chez vous, il n'y a pas beaucoup de douceur et ça se fait rapidement, mais vous êtes une adulte maintenant.
Prenez
tout doucement cette place d'adulte en parlant différemment à votre papa, sachant que pour l'instant, c'est vrai que vous êtes dépendante financièrement de lui, donc il n'y a pas de possibilité de changement matériel pour le moment.
Il n'y a pas
a pas d'autre option. Il n'existe pas de centre, je ne sais pas, je ne me rends pas compte du problème visuel que vous avez, jusqu'où ça vous pose souci. Qu'est-ce qui est compliqué pour vous au quotidien, par exemple?
Par exemple, quand je connais le lieu, ça va, je peux me déplacer. Par contre, quand je ne connais pas, c'est plus compliqué. Ça, c'est sûr.
Je ne me rends pas compte. Expliquez-moi plus clairement. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas du tout faire, en fait? Voilà.
Si je connais les lieux, je peux me déplacer comme n'importe qui, en fait. Par contre, si je ne connais pas la ville, par exemple, c'est très compliqué. Parce que, en fait, avec la lumière et tout, je n'ai pas mes repères.
Quelles sont les solutions pour les gens qui ont des problèmes comme vous? Est-ce que c'est une canne? Est-ce que c'est un...
Moi, j'ai carrément des lunettes de soleil quand je sors, parce que sinon, c'est impossible. Et oui, j'ai une canne après.
Pour pas rentrer dans quoi que ce soit, pour être en sécurité.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Ouais.
Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de demander une place d'un logement dans un centre?
J'attends. C'est bien ça le problème, c'est qu'on m'a mis sur une liste d'attente. Voilà. C'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent des places comme ça Et du coup, il y a des listes d'attente qui sont assez longues. En plus, dans mon département, c'est un petit département. Enfin, c'est pas un petit département, mais c'est vrai que c'est pas Aix ou Marseille, c'est vraiment la campagne, quoi. C'est, enfin, la campagne, plutôt la montagne, quasiment. Mais
il y a moins d'options, forcément. Ouais.
Voilà, il y a moins d'options, oui.
Et vous, est-ce que vous pourriez voir une thérapeute?
Bah oui, ça, à la limite, je pourrais voir une thérapeute, oui.
Parce que ça serait intéressant pour vous à double titre. D'abord, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les thérapeutes travaillent quand on a envie de se diriger vers ces métiers-là. Et puis parce que je pense qu'il y a quand même... Comment vous êtes par rapport à cette perte de votre maman? Est-ce que c'est quelque chose qui est digéré ou est-ce que c'est encore une émotion qui est compliquée pour vous?
Mais ben, petit à petit, ça commence à passer. Je vous dis, j'ai recommencé à faire de la flûte l'année dernière, chose que je ne pouvais pas avant. Et je vais essayer petit à petit à me remettre au piano. Voilà. Et en fait, pour moi, faire du piano, ce n'est pas possible parce que je pense trop à ma mère. Et en fait, bon, avant, je voyais vraiment... Enfin, j'avais souvent l'image de quand elle est tombée et enfin, la scène. Après, là, ça commence à passer... petit à petit, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore complètement
donc
digéré.
Ça serait bien aussi. Aurore, on a plusieurs messages SMS qui sont arrivés pour vous. Je vais vous les livrer les uns après les autres.
D'accord.
Quelqu'un qui nous dit, ce monsieur, donc en parlant de votre papa, a droit à des aides à la personne pour un retraité. Oui, c'est vrai aussi, ça. Il peut demander une aide à domicile, votre papa. C'est pour des choses que vous n'êtes pas obligé de faire. Ménage, course, repassage. C'est pour ça que je vous parlais d'assistante sociale tout à l'heure. Ça serait bien de reprendre contact peut-être avec une autre.
Oui.
Ou une aide demander effectivement une aide à domicile pour qu'elle prenne en charge des choses que vous n'avez pas à prendre en charge.
Oui, c'est vrai, oui.
Alors Patricia nous dit aussi, et soigner ce papa pour l'interrogation, il a besoin d'une aide psychiatrique. Mais on en parlait, il ne veut pas. Donc ça, c'est compliqué.
Le problème, c'est ça.
Patricia qui nous dit en parlant de vous, quelle merveilleuse petite jeune fille.
Ah, merci. Merci Patricia, c'est gentil.
Oui, c'est vrai, vous êtes pleine de peps, pleine de dynamisme, pleine de sourires et toujours debout à l'intérieur malgré tout ça. C'est pour ça que je vous dis, je crois que vous serez une chouette thérapeute. Ça me paraît...
C'est gentil.
Ça me paraît évident. Si vous gardez cet objectif en ligne de mire, ce sera bien. Mais en attendant, il faut que vous continuiez à tenir debout. Effectivement, c'est une bonne idée de demander une aide à domicile. Je ne sais pas exactement quels sont les droits de votre papa. Ça dépend de ses revenus, ça dépend de plein de choses. Mais retournez à la mairie. Vous êtes majeure maintenant, une fois de plus.
Oui, je suis majeure. Oui, ça, c'est bon. Je vais avoir 22 ans au mois de février, c'est bon.
Et oui. Donc, demandez pour lui peut-être ce que vous pouvez faire sur un plan matériel, puisque bon, vous pouvez pas l'obliger de toute manière à avoir MC, ça c'est clair.
Non, bah, mais de toute façon, je crois qu'il est vraiment anti-psy, quoi. Enfin bon, même l'histoire de faire des études de psy.
J'allais vous dire, oui, du coup, comment il prend ça? Il est en travers du gosier ou ça passe, non?
Un petit peu, quoi.
Ça fait glouce.
Voilà. Parce qu'il pensait, au départ, il ne pensait pas que j'étais versée dans la psychologie ou quoi. Mais en fait, je lui ai dit, mais papa, en fait, c'est obligé. Sinon, c'est vrai que je serais au fond du trou, quoi. Si j'avais pas pris l'option de travailler sur moi-même, je serais... Voilà, quoi.
De comprendre les rouages de l'humain, ouais. Bah, oui.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'il n'a pas trop bien pris, mais bon. Voilà.
Oui.
Après, j'ai dit, papa, c'est ce que je veux faire. Bon, voilà.
C'est votre choix, votre liberté, ça c'est sûr. Mais en attendant, il faut arriver à trouver la bonne distance émotionnelle et la bonne distance physique avec ce papa. Donc la bonne distance physique, c'est effectivement de trouver, lui faire comprendre. Vous pouvez lui dire que vous allez faire cette démarche, qu'il a droit à des aides et que c'est pas à vous de prendre en charge les courses, le ménage, la vaisselle, le repassage, la maison. Enfin, c'est pas votre rôle. Participer, tout gérer, non. Vous n'êtes ni sa femme, ni sa femme de ménage. Vous êtes sa fille.
Voilà, participer, j'ai toujours participé. Par contre, c'est vrai que là, j'ai du plein temps, je vous le dis.
J'imagine bien. Il faut qu'il vous donne et que vous preniez, vous, un rôle réaliste. Vraiment.
Oui.
Qu'ils comprennent que, voilà, c'est pas normal, ça n'est pas logique, ça n'est pas sain non plus. Ni moralement, ni physiquement.
Non, c'est sûr.
Et surtout, ce qui est dangereux pour lui, et c'est ça qu'il faudrait lui faire comprendre tout doucement, c'est que vous n'allez pas rester.
Oui, c'est ça.
Et que s'il rentre dans un fonctionnement comme ça, ça va être d'autant plus brutal et compliqué. Vous avez déjà fait la remarque, quand vous étiez en internat, il ne vous lâchait pas déjà.
C'est-à-dire qu'en internat, par contre, là, par contre, pour le coup, je ne lui téléphonais jamais quand j'étais à l'internat. Par contre, quand j'étais à la fac, à la première année de fac, comme l'internat était plus loin du domicile, là, par contre, j'étais obligée de lui téléphoner. Mais par contre, quand j'étais au lycée, c'est vrai que jamais je lui ai téléphoné. Jamais.
Oui.
Parce que j'étais tellement bien à l'internat que... Voilà. Oui. Voilà, ça a été un peu ma réaction de... Bah, je suis libre, en fait, donc...
C'est ça qu'il faut qu'il comprenne, c'est que pour l'instant, il colmate les brèches, c'est-à-dire que dès qu'il y a une issue, il la ferme parce qu'il vous enferme un peu moralement et psychologiquement, sauf que ça ne va pas pouvoir durer. Il faut aussi qu'il comprenne que cette liberté, c'est aussi d'arrêter de vous crier dessus et de vous mettre mal. Mais de toute manière, cette liberté, vous allez la reprendre dans pas très longtemps. Les années vont vite, il vous reste 3 ans d'études.
Oui.
Et il faudrait que vous arriviez chacun à trouver la bonne distance pour votre bien à l'un et à l'autre.
Et oui, mais ça, de toute façon, j'avais déjà expliqué que je faisais des études, mais après, tôt ou tard, il faudrait bien que je travaille aussi. Donc, voilà. Mais il m'a dit, oui, on verra quand ce sera le temps ou quoi. Mais je lui ai dit, mais ça va vite passer.
Et oui.
Et...
Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous arrivez à écrire? Ouais, vous avez un dictaphone qui écrit ou comment vous fonctionnez?
J'adore écrire.
Ça m'étonne pas.
J'écris tout le temps.
Est-ce que vous avez déjà écrit à votre papa?
Je l'ai déjà écrit, mais c'est vrai que il écoute pas. Enfin, déjà, il a même pas lu. Il a même pas lu ni rien. Donc bon.
Vous l'avez écrit quoi?
Ce que je ressentais, en fait. Bon, j'avais dit que... Bah, c'était, peut-être 2 ans après la mort de ma mère. J'avais dit que... que c'est vrai que je supportais plus trop... Parce que là, pour le coup, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Que je supportais plus trop bien sa façon de se comporter, la façon qu'il... il me crie dessus tout le temps pour rien. Que des fois, il faudrait qu'il prenne la vie comme elle vient, en fait. Pas en s'énervant, parce que c'est vrai que du coup...
Oui, mais vous voyez, là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous l'avez écrit non pas pour parler de vous, mais pour lui faire des reproches. Mais c'est humain, hein. Tu devrais... Moi, je vous suggérais d'écrire, mais peut-être même pas forcément une lettre, quelque chose de plus long, comme un petit recueil d'émotions, de choses comme ça, pour parler de vous, que vous pourriez lui donner à un anniversaire ou à une occasion particulière.
Juste... L'anniversaire, c'est un peu de temps, oui, c'est sûr.
C'est quand?
C'est le 9 décembre.
Voilà, il y a la fête des pères au mois de juin, donc ça, c'est
oui.
Plutôt. Juste une petite chose, vous m'avez dit, il ne l'a pas lu. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne l'a pas lu?
Parce que je lui ai demandé s'il avait eu ma lettre, il m'a dit, ah bon, quelle lettre?
Ça, j'y crois pas une demi-seconde, hein, pardon, mais je ne connais personne qui reçoit une lettre de sa fille... Et qu'il la lit pas.
Écoutez, moi, c'est ce qu'il m'a dit.
Oui, alors, bien sûr. Mais je pense que c'est une protection. Je pense qu'il était mal à l'aise ou qu'il n'a pas su quoi vous répondre. Mais vous imagineriez-vous recevoir une lettre de votre père, par exemple, et arriver à ne pas l'ouvrir?
Non, c'est sûr.
Bah oui.
C'est sûr. Mais moi, je vous dis juste ce qu'il m'a dit. Après,
Je sais pas. J'ai bien compris. Je pense qu'il s'est protégé derrière ça parce qu'il n'a pas su quoi répondre. Donc, voilà, réflexe. Non, j'ai bien sûr. Quelle lettre? Ben oui, enfin bon. Mais réfléchissez peut-être à poser sur quelque chose, sur un papier, mais des choses qui parlent de vous, comme on disait tout à l'heure, de vos émotions, de vos envies, de votre vie, du futur, sans l'accuser, sans lui dire tu devrais, sans tout ça. Ça, c'est plus à l'oral. Juste ça. Déjà, vous, ça vous ferait du bien.
Oui.
Et lui, il sera forcé d'entendre ça. Bien sûr qu'il le lira. Évidemment qu'il le lira.
Et du coup, est-ce que je peux vous poser une autre question? Pour ma grand-mère, est-ce que je dois faire pareil?
La maman de votre maman qui vous parle plus, c'est ça?
Oui, est-ce qu'il faudrait que je fasse pareil?
Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de « il faut », en fait. Dans votre cœur, qu'est-ce que vous souhaiteriez? La situation idéale, ce serait quoi?
J'aimerais bien lui reparler, au moins mettre les choses à plat, quoi. Lui dire, je ne sais pas, je sais pas ce qu'il lui a dit, déjà. Je sais pas, elle m'a plus parlé comme ça du jour au lendemain. C'était assez violent, donc je ne sais pas. Est-ce que je devrais lui écrire comme à mon père ou...
Est-ce que vous avez tenté un contact avec elle depuis ou pas du tout?
Un contact, oui, par téléphone. Elle m'a pris pour une folle. Donc, elle m'a raccroché au nez. Oui, elle m'a pris pour une folle, oui, oui. Qu'est-ce ah oui, vraiment.
Mais pourquoi pour une folle?
Parce qu'elle m'a dit que oui, que j'ai contacté juste comme ça, pour profiter d'elle ou je sais pas quoi, j'ai rien compris du tout. Et elle m'a raccroché au nez, voilà. Et elle m'a dit que je devrais me faire suivre par un psy. Voilà.
Ouais, alors si vraiment dans le fond de votre cœur vous avez envie, et je peux comprendre que vous ayez envie parce que c'est quand même la maman de votre maman, et ça aurait pu être un soutien, ça n'est pas le cas, je ne sais pas pour quelle raison, ça, il faudrait connaître son histoire à elle.
Moi,
je vous suggérerais de lui écrire, mais ne placez pas trop d'espoir et d'attente dans cette lettre.
Ah non, mais ce serait même pas pour... Non, mais juste pour mettre les choses à plat, voilà, et dire que je ne sais pas ce que mon père lui a dit, ça, je ne sais pas, mais...
Donc là aussi, de la même manière, ne soyez pas dans le tu ou ça, mais juste parler de vous. Oui, moi, je le ferais. Lui dire, voilà comment moi je vis la situation, je ne comprends pas ce qui se passe, j'en suis peinée, ça me fait du mal. J'aimerais bien avoir un lien avec toi. Mais ensuite, lâchez prise. Une fois que c'est fait, voilà, n'espérez rien, n'attendez rien, parce que si ne se passe rien, ça va vous faire du mal. Simplement, dites-vous que si ça peut être une libération, dites-vous que vous allez tenter d'ouvrir cette porte-là, mais si elle ne s'ouvre pas, eh ben vous continuez votre chemin.
Ok.
Hein? Parce que j'ai pas envie que vous disiez après que vous êtes tellement en attente de quelque chose que si ça n'arrive pas, ça vous fait du mal. Quoi.
Non, j'attends rien de spécial, mais simplement, moi, lui dire que, voilà, que moi, j'étais pas là pour lui faire du mal, juste pour avoir un petit soutien, vu que c'est quand même la mère de ma mère. Voilà, c'était juste ça. Après, c'est tout. J'attendais rien en retour, en fait.
Oui, ouvrez-lui votre cœur, sincèrement. Et vous verrez bien. Si ça, les choses qui doivent se faire se font, vous savez, Aurore. Donc, si ça doit se faire, il y aura un déclic.
Oui. C'est ce que je me dis aussi. Bon, après, c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que ce serait bien de le faire ou pas, en fait. Voilà, c'était juste la question.
Mais je pense, écoutez votre cœur, si vous avez vraiment envie de rétablir ce contact-là, oui, faites-le, sinon vous allez le regretter. Vous direz, j'ai pas essayé. Par contre, si vous faites ça et qu'il y a derrière rien, là, je vous dis lâcher prise, en tout cas pour quelques temps.
Oui,
verrez plus tard.
Okay.
Donc petit 1, je pense, pour moi la première chose importante c'est vraiment de trouver une assistante sociale qui vous guide ou des services de la mairie pour des aides matérielles pour ce qui se passe à la maison, aide à la personne.
D'accord, oui.
Effectivement, il faut voir à quoi votre père a droit et donc par ricochet ce à quoi vous avez droit. Déjà ça peut vous soulager sur un plan matériel et ça serait pas mal du tout.
Oui, ça serait bien, oui.
Sur un plan moral et psychologique, essayez de rétablir une communication avec votre papa sur le mode du « je » et pas du « tu ». Je voudrais te dire comment moi je me ressens, comment je sens les choses.
D'accord, ok.
Te parler de l'avenir quand c'est possible. Le mettre en garde effectivement sur le fait que c'est pas parce qu'il a trouvé un jour une psy qui lui a pas convenu ou qui était comme ci ou comme ça, qu'elles sont toutes pareilles. Que s'il veut pas avoir une psy, il peut voir aussi peut-être une hypnothérapeute. Il n'y a pas que des psychologues, il y a d'autres thérapeutes. Une sophrologue, vous voyez, d'autres praticiens ou praticiennes qui ont d'autres approches qui pourraient lui faire du bien. Notamment, la sophrologie est quelque chose qui aide énormément à gérer la colère.
Calme.
Et oui.
Oui, calme, oui. Et oui. Ça, je le sais.
Dis-tu déjà que... Oui, vous l'avez fait.
Je l'ai fait en terminale, oui. J'avais une CPE qui donnait des cours de sophro, donc oui, je connais. Je connais la sophrologie.
Dites-lui d'abord que vous n'êtes pas là pour absorber cette colère-là, qu'en plus, dans quelques temps, vous ne serez plus là du tout et que ça serait bien que lui, là, il la décharge, qu'il apprenne à la gérer, notamment avec la sophrologie. Ça serait déjà peut-être une ouverture pour lui, ce qui n'est pas de la psy, c'est pas va voir un psy, c'est fais-toi du bien, va gérer ça avec de la sophro, par exemple. Ça pourrait être vraiment bien.
Est-ce que c'est possible, est-ce que vous avez Facebook ou la page de l'émission, est-ce que c'est possible que je vous envoie la lettre et que vous la relisiez ou je sais pas, voir si c'est bien ce que j'ai écrit ou pas?
Je vous dirais en temps normal non, mais avec vous j'ai envie de le faire. Je vous trouve adorable, je vous trouve touchante. C'est mon côté mère poule là que vous faites ressortir. Oui, j'ai une page Facebook Sabine Marin. Envoyez-moi ça en privé, hein, bien sûr.
Oui, ah. D'accord, ok, super, merci beaucoup, c'est gentil.
Et oui, là, vous appuyez sur ma corde sensible de mère poule. Mais je suis drôlement fière de vous, Aurore, vraiment, parce que je trouve que vous êtes... vous savez, on dit toujours dans la vie, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ben voilà, vous en êtes une preuve sur pattes.
Oui.
Hein. Mais il n'empêche que, quand même, protégez-vous matériellement en vous en aidant, en allant demander des aides auxquelles vous avez droit.
Oui.
Et puis protégez-vous psychologiquement en commençant à prendre cette bonne distance émotionnelle et à bien percevoir que vous êtes grande et que le pot de confiture, maintenant, il est à portée de bras. Vous n'avez besoin d'autorisation de personne pour le prendre. Donc ce papa, okay. Vous pouvez aussi lui faire part de... Est-ce que vous vous dites, tous les deux, que vous aimez d'ailleurs? Est-ce que c'est des mots qui sont prononcés chez vous? Je t'aime.
Moi, pas trop, c'est vrai, je dis pas trop. Vous savez, je dis pas grand-chose de mes émotions, donc...
Mais bon. Oui, mais c'est ça.
Voilà.
C'est difficile parce que j'imagine que vous n'avez pas été éduquée comme ça, mais que lui, il sait exprimer sa colère, mais il sait probablement pas exprimer son amour non plus.
Oui, c'est vrai, oui.
Donc commencez doucement, même par écrit, à lui dire. Vous savez, quand on commence une conversation, je vais vous donner un exemple tout simple, mais on se fâche avec quelqu'un, et puis la personne vient pour discuter. Si la personne vient, bon, bah écoute, voilà, faut qu'on parle, il y a eu ça, on se braque. Si la personne vient en commençant en disant, écoute, j'ai deux choses à te dire, pardon, je t'aime, et maintenant on parle. Eh ben,
oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est mieux.
Ça change tout. Donc apprenez peut-être à dire je t'aime, et en apprenant ça, vous allez lui apprendre à vous le dire. Et ça peut calmer beaucoup de choses aussi, ça.
Oui, c'est vrai, oui.
Aurore, il va falloir qu'on se quitte parce qu'il y a pas mal de monde derrière et puis il y a les infos qui arrivent. Surtout, ne raccrochez pas. Oui, dites-moi.
Est-ce que je peux juste vous demander, c'est possible d'avoir une petite photo dédicacée de l'équipe ou pas? C'est pas possible, c'est pas grave.
C'est pas que je veux pas, c'est qu'on n'a pas. On n'a pas de photo d'équipe et je n'ai même pas moi de photo perso. J'en ai que sur Facebook, mais bon, je suis désolée, ça je peux pas la fabriquer.
C'est pas grave.
Deux choses, donc on reste en contact sur ma page Facebook et puis vous restez en ligne parce qu'Amandine a plein de coordonnées de gens qui souhaiteraient entrer en contact avec vous aussi.
D'accord, ok, pas de problème. Ok, pas de soucis.
Je vous embrasse, Aurore, merci de votre appel.
Merci beaucoup, gros bisous et bonne année à vous.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin sur cette libre antenne. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 3921 tout au long de l'émission. Amandine et Hassan sont en pleine forme, ils attendent vos appels au standard Europe 1. Si vous avez envie de participer à l'émission, d'intervenir par SMS, vous pouvez aussi faire le 739-21 en commençant bien par le mot « nuit ». Vous le savez, vos SMS sont toujours importants pour soutenir, encourager, apporter une idée ou entrer en contact avec quelqu'un que vous entendez. À ce propos, je vous rappelle une fois encore quelque chose d'important. Si vous voulez justement entrer en relation avec quelqu'un qui passe à l'antenne, faites-le s'il vous plaît tout de suite par SMS, car nous n'avons pas le droit de garder les fiches des intervenants. Donc, comme ça arrive malheureusement souvent, si vous réagissez le lendemain ou les jours suivants par message, par SMS ou sur Facebook, c'est trop tard, nous n'avons plus les coordonnées demandées. Si quelqu'un vous touche, si vous avez envie de lui parler, d'entrer en contact, envoyez-nous dans le courant de l'émission un SMS avec vos coordonnées, 739-21 en commençant par le mot « nuit ». Et Amandine et Hassan transmettront votre demande à la personne concernée. 39-21 donc pour venir prendre la parole sur cette libre antenne, partager des moments de vie, des expériences ou des questionnements. Vous pouvez donc continuer à nous appeler jusqu'à 1h du matin.
La libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et j'accueille donc maintenant Étienne. Bonsoir à vous Étienne.
Bonsoir.
Sabine.
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Bienvenue sur cette libre antenne.
Bon ben, là, j'espère que je vais être claire, hein, parce que là, c'est vraiment pas facile, là, d'après.
Dites-moi.
Comme j'ai dit au standard, j'ai 21 ans, j'habite à Marseille, là, depuis un an et demi. Et ce qui se passe, c'est que depuis la fin du CAP que j'ai obtenu, là, en 2015, je souhaitais, à partir depuis ce moment-là, de travailler là pour couper les ponts avec mes parents, voilà, pour résumer en deux mots. Mmh. Et ce dont je ne suis toujours pas parvenue à faire. Là. Et ce qui se passe là ces derniers temps, là je suis avec la mission locale pour voir sur ce plan-là. Et ce dont j'ai essayé là, c'est de voir avec la grande distribution et aussi les restaurants, donc grande distribution haute de caisse plutôt qu'être dans les rayons. Et où ça a bloqué, c'est par rapport aux méthodes de recrutement, c'est-à-dire que c'était, ça ne correspond pas à, j'ai pas la personnalité pour faire ce genre de choses là, car je ne regarde pas les gens dans les yeux, je n'ai pas de contact, le contact facile et tout, donc du coup voilà, ça ne s'est jamais fait sur ce plan là. Voilà, ce problème c'est que ça dure depuis très longtemps, donc depuis quelques années maintenant. Et
attendez, qu'est-ce qui dure depuis quelques années?
Ne pas trouver de quoi gagner mon propre argent, on va dire.
Vous avez 21 ans, donc ça fait pas si longtemps,
oui,
que ça.
Oui, enfin depuis la fin du CAP, parce que du coup concrètement voilà, ça fait depuis 2015. Parce que du coup là je suis sous la coupe de mes parents là pour le loyer et pour tout le reste. Là je touche aussi la CAF. Et c'est pas facile pour ensuite faire mes propres choix pour réussir à me sentir plus libre dans la tête et tout quoi. Car avec mes parents j'aimerais réussir à avoir une distance à la fois matérielle et psychologique. Et le problème aussi qui se pose, c'est que après à côté pour faire des activités là, comme j'ai dit au standard, il y a aussi la musique que j'ai vue. Et le problème qui se pose là aussi, c'est que je n'arrive pas à trouver de quoi le faire. J'ai discuté avec plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer là, ces derniers mois. Et un homme là, avec qui j'avais discuté en octobre m'a dit là, que me concernant, car ça serait surtout dans le domaine électronique, la seule chose à faire, car apparemment il n'y a pas vraiment d'autre solution, c'est d'avoir son propre ordinateur. Et là, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre, et du coup, là, le budget, là, c'est plus de 1000 euros. Donc là aussi, le fait de ne pas réussir à avoir trouvé un travail à côté, bah, ça m'empêche de... ça m'empêche d'autres choses là, dans ce domaine-là.
Bah vous n'avez aucune liberté financière, ça c'est clair.
Ouais, voilà.
Quel est le CAP que vous avez passé?
Vente. Mais voilà, donc à chaque fois je suis obligée de le dire, mais ce CAP je l'ai obtenu car je m'entendais bien avec la classe et j'avais de bonnes notes. Et donc voilà, mais sinon ça aurait été dans d'autres conditions. Voilà. Donc voilà, ça a été une erreur ce CAP.
Bah oui, parce que si vous êtes si timide et mal à l'aise avec les autres, c'est pas des métiers pour vous la vente.
Mais en fait, du coup, c'était spécialité librairie. Donc aussi, comme j'aime bien les livres et que j'aimerais bien aussi écrire à côté, du coup, je suis tombée dans ce CAP aveuglément, car avant, j'avais fait des secondes générales. Bon, là, je reviens dans le passé, du coup. Et donc, du coup, pour tout le monde, ça a été l'option de facilité, car ce CAP se trouvait à côté de l'internat où j'étais. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup,
ouais, mais une solution de facilité qui vous ouvre aucune porte, quoi.
Mais bon, après, voilà, ce CAP, voilà, je ne le vois plus comme quelque chose à présenter pour travailler, car la grande distribution, je l'ai vu là, avec mon conseiller et tout. Je pense que pour ce domaine-là, ça ne sert à rien d'insister, car les méthodes de recrutement là, sont très strictes et tout. Et du coup, je vais droit dans le mur. Là, j'ai vu quelqu'un d'autre. Parce que du coup, là, le problème aussi, c'est qu'avec la mission locale, donc il y a beaucoup de monde et tout. Donc les rendez-vous... très espacé et les choses avancent très lentement, donc il a fait appel à mon conseiller, à quelqu'un d'autre qui travaille dans une espèce de filiale d'apprenti d'Auteuil, et là que j'ai déjà vu une première fois là, vendredi, que je vais revoir là, cette semaine. Et du coup là on va essayer de voir autre chose, on va avoir une agence d'intérim pour essayer de trouver de travailler dans d'autres domaines. Donc, par
mais
exemple,
vous me parlez beaucoup des autres là, mais vous avez envie de faire quoi?
De dépendre que de moi-même.
Non, ça, j'ai bien compris, mais comme métier, vous avez envie de passer
votre... métier.
Qu'est-ce qui vous plairait à vous?
Bah, déjà, je sais pas. Là, j'aimerais sur le très long terme, après, je sais pas, j'aimerais bien écrire. Je vois ça pouvoir...
Si vous ne savez pas où vous voulez aller, ça va être difficile de vous programmer pour y aller. Hein. Je vous sens un peu passif dans tout ça. Vous n'êtes pas satisfait de la situation, mais vous ne prenez pas de décision ou de... Vous voyez, pour mettre des choses en marche.
Bah, par exemple, pour la musique, là, voilà, le problème, c'est que, du coup, là, apparemment, il y a un frein qui se met, car j'ai discuté avec quelqu'un, il faudrait peut-être un ordinateur.
Pour la musique, ça veut dire quoi? C'est pas un métier. Vous voulez faire quoi dans la musique?
Bah, pour l'instant, ce serait pratiquer voilà, la musique.
Mais ça, c'est pas un métier.
Mais voilà, ce serait faire cette activité, et ça fait depuis longtemps que j'y pense. Et le problème, c'est que, là, quand vous parlez de métier, c'est vrai que dans un premier temps, ce serait faire quelque chose pour ne plus dépendre financièrement de mes parents, donc ça ne serait pas un métier sur le long terme.
Donc ça serait des petits jobs, mais ça, des petits jobs, ça se trouve, même je ne sais pas, du babysitting, des travaux de jardinage, des travaux de garde de chien, je ne sais pas, non, vous pourriez pas faire des petites choses
après,
comme
ça. Après, oui, effectivement, là, vous l'avez dit, là, jardinage et garde de chien. Là, j'en ai discuté avec cette femme là, que j'ai rencontrée, donc on va peut-être voir là-dessus, mais après, comme je ne suis pas du tout à l'aise avec les gens, que je n'ai jamais réussi à prendre les devants et tout,
d'accord.
Et bien,
vous dites...
Du coup, il n'y a aucun réseau, voilà, je n'ai personne vers qui aller.
Alors,
et
oui,
tout, je peux compter que sur cette mission au calme, du coup.
Non, je pense que vous pourriez apprendre à compter sur vous-même aussi, Étienne. Parce que là, vous me dites, on va regarder ça. Il y a besoin de personne pour aller trouver un petit boulot de jardinage ou d'aide entre voisins. Hein. Il y a des sites dans toutes les villes, il y a des pages Facebook de gens locales. Il n'y a pas besoin qu'on vienne vous prendre par la main à 21 ans pour vous trouver un petit job. Ça, vous pouvez le faire tout seul. Par contre, là, ce que j'entends, si votre histoire, si ce que vous me dites est vrai, c'est que vous êtes mal à l'aise dans la relation et que donc aller vous présenter même à un voisin, ça peut être compliqué pour vous, c'est ça?
Oui, oui, voilà.
Donc, à mon avis, la première urgence, c'est de changer ça. Ça va de travailler là-dessus. Parce que ça va vous bloquer dans tout. Ça va vous bloquer dans une relation avec les filles aussi, probablement, avec un futur employeur, avec plein de gens avec lesquels vous devriez être en relation naturelle. Si vous vous bloquez vous-même, vous allez vous fermer toutes les portes. Et donc c'est
Du coup, quand on parle de petit travail, comme dans le jardinage et tout, ça, le fait de rester, de ne pas avoir le contact facile, ça ne m'a pas aidé à avoir un environnement, la psychologie d'aller sereinement vers les autres.
Frapper à des portes pour voir si on vous ouvre, quoi.
Oui.
Mais vous avez
puis après, voilà,
été...
le problème, c'est que vous dites qu'il y a des sites et tout, mais on se retrouve avec les gens, ça fait 70% du truc et tout, voilà.
Est-ce que vous avez toujours été comme ça, même petit garçon, réservé, timide, en
retrait?
Oui, toujours.
Ça s'est aggravé à partir du collège et tout. Déjà, après, en primaire, j'étais dans un environnement qui n'était pas exactement adéquat au mien.
C'est-à-dire?
Et après, c'était pas la même mentalité et tout. Et puis après, au collège, ça s'est aggravé sur plusieurs choses par rapport aux notes, dans un premier temps. Puis après, voilà, hein, j'étais un peu...
Quoi, le bouc émissaire?
C'est sûr que ça m'a fait... Quoi, bouc émissaire?
Oui, je sais pas, vous finissez pas vos phrases, donc j'essaie de les finir pour comprendre un peu.
Après, je sais pas si j'ai envie d'aller dans les détails là sur plusieurs choses. Mais après, sur le collège et tout, voilà. Après, j'ai changé plusieurs fois de collège et tout, donc ça m'a pas aidé à. Après, ne serait-ce qu'à. Là, comme vous dites, à parler de jeu au lieu de on, parce que voilà.
Donc le vrai nœud de toute votre histoire, c'est ce manque de confiance qui vous bloque.
Qui me bloque dans tous les aspects.
Comme vous dites, vous ne regardez pas les gens dans les yeux quand vous leur parlez. C'est ça. Et donc c'est vrai que j'imagine que pour des entretiens d'embauche, on ne doit pas retenir votre candidature en premier. Ça,
pour la grande distribution, apparemment.
Oui, mais dans plein de domaines, les rapports humains sont importants. Oui. Donc je pense que la première urgence, ce serait ça. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour changer ça, pour travailler ça sur vous? Que ce soit une thérapie ou que ce soit par exemple effectivement du théâtre, de la danse, des activités qui permettent
de
s'ouvrir.
Le théâtre et tout, j'avais bien essayé une année, mais j'ai décidé je suis en figure.
Attendez, je vous entends plus là. Parlez dans votre combiné, s'il vous plaît.
Le théâtre et tout, j'avais essayé une fois, il y a quelques années, mais ce n'était pas le bon environnement. Mais là, du coup, le théâtre, c'est dans une activité. Enfin, c'est une activité. Et c'est vrai que je n'ai pas réessayé depuis, là.
J'entends un écho, pardon. Le théâtre, le chant, vous savez qu'il y a des cours de chant.
Ouais. C'est pour ça aussi qu'après, la musique...
Ça permet de s'évader, mais oui. Oui, mais attention, la musique peut aussi vous isoler encore. C'est aussi une manière de faire des choses seules, et ce n'est pas forcément ce qu'il vous faut.
Ouais, après, on partage, on voit les gens, enfin, voilà, c'est...
Après,
quand on se convainc soi-même qu'on fait quelque chose et tout, ça peut aider dans la confiance et tout, quoi.
Je suis pas persuadée. Je connais beaucoup de gens qui sont des grands timides et des grands réservés qui se cachent derrière la musique, justement. Donc c'est très bien d'en faire, mais c'est pas ça qui va vous ouvrir aux autres.
Mais bon, après, ce serait toujours mieux que ma situation actuelle, quoi.
Mais jouer de la musique, ça va pas vous faire gagner votre vie. Pas tout de suite, en tout cas. Vous savez très bien que c'est pas un métier comme ça qui nous permet de gagner sa vie du jour au lendemain.
Mais dans un premier temps, ce serait une activité dont j'aurais besoin, quoi.
À moins de, si vous avez des talents particuliers, de proposer vos talents de musicien ou
Non, pas du tout.
Non.
Excusez-moi.
Non, dites-moi.
Après, j'essaie aussi de voir pour le sport. Donc là, depuis une semaine, j'ai réussi à aller quelque part. Donc pour l'instant, je ne parle pas aux gens. Donc après, peut-être que je peux arriver là aussi à débloquer des choses.
Quel sport ?
Bon, c'est pas un sport collectif. Et j'ai pas envie de le dire, excusez-moi.
Ah bon ? Bah écoutez. Et une thérapie ?
Une thérapie, oui.
Vous savez, il n'y a pas 10 000 solutions. Si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien, il n'y a rien qui changera. Donc si vous voulez vous sortir de cette situation-là, il faut arriver à reprendre le dessus sur vous-même, travailler sur cette timidité, arriver à prendre votre place, à trouver votre place et la prendre. Et pour oser la prendre, il faut travailler sur vous. Que ce soit avec du sport, que ce soit avec du théâtre, que ce soit avec du chant, que ce soit en thérapie.
J'essaie de voir partout, oui, pour les activités, les thérapies, évidemment que je peux voir ça, mais après les activités, j'essaie de voir beaucoup de choses et des fois ça se bloque et tout et après les choses ne se font pas et ça traîne. Je suis pas très claire.
Mais vous n'avez jamais vu de thérapeute, en fait. Vous me dites je peux essayer, mais vous n'avez jamais fait encore.
Les thérapeutes, j'en ai vu beaucoup, oui, quoi, avant, mais pour l'instant non, c'est... Oui, ça peut m'aider sur certains points, mais ce ne serait pas faire quelque chose qui me plaît, en fait. C'est sur cet aspect-là, pourquoi je ne vois pas là-dessus. C'est ce dont là, je me dis, c'est ce dont j'ai besoin, là, ce dont je me dis, ouais, c'est de faire une activité, faire quelque chose qui me vide la tête, donc comme le sport et tout, pour régler certains problèmes, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire ?
Bah, là, pour la musique, par exemple... là, il y a eu l'aspect budgétaire et tout, parce que une personne que j'ai contactée m'a dit qu'il me faudrait un ordinateur qui coûte plus de 1 000 euros, apparemment. Donc là, c'est parce que la musique, du coup, ça fait depuis octobre que je vois ça. Là, j'ai rencontré là, plusieurs personnes, j'ai toqué à 3 endroits au moins. Donc là, c'est vrai que, comme là, pour l'instant, ça ne s'est pas fait, ça me décourage, en fait.
Mais alors, c'est tout ou rien. Ça ne marche pas parce que c'est trop cher, donc du coup, vous ne faites rien d'autre. Mais il y a peut-être d'autres activités qui coûteraient moins cher. Non ?
Oui. Pour le sport, ça peut se faire, mais oui.
Et sinon, quand je parlais de thérapie tout à l'heure, je ne parle pas forcément de thérapie en psychologie, si vous n'avez pas envie d'aller par là, mais pourquoi pas d'un coach ? Ça vous ferait du bien, un coach ? Quelqu'un qui vous prend pendant quelques rendez-vous, pas forcément pendant très longtemps, et qui vous apprend à vous libérer, qui vous apprend à prendre votre place, à trouver votre chemin, un vrai travail sur vous, à éventuellement construire un avenir, prendre des décisions.
Qui m'aide à construire une vie sociale, on va dire, à réussir à aller faire les choses.
Il y a de très bons thérapeutes qui sont de très bons coachs. Et c'est pas vous partez pas pour 3 ans ou 4 ans ou 5 ans de thérapie, simplement voilà quelqu'un qui peut vous coacher moralement, physiquement, intellectuellement et vous aider à trouver votre chemin, votre voie.
Est-ce que la personne là que je vois là qui a été contactée par mon conseiller de la mission locale, donc qui travaille apparemment avec l'apprenti d'Auteuil, est-ce que ça peut faire office de coach du coup?
Je ne sais pas de qui vous parlez, je ne sais pas quelles sont ses compétences.
Bah c'est un peu comme une conseillère, du coup, là, on est en train de voir, là, du coup, pour une agence d'intérim, mm-hmm. Est-ce qu'elle peut, voilà, elle peut faire office de coach sur certains points, du coup. Enfin, après, il faudrait que je la voie assez régulièrement et que j'arrive à faire les choses, qu'on arrive à trouver les choses et tout. Quoi.
Je suis en train de regarder en même temps, il y a des SMS qui sont arrivés pour vous. Je suis assistante sociale, j'accompagne en centre d'hébergement d'urgence. Le dispositif de garantie jeune par la mission locale permettrait à ce jeune homme de faire des stages dans différents secteurs. Je pense qu'on a dû vous en parler de ça, non? D'avoir un accompagnement.
Oui.
Ça vous aide dans ce circuit-là de la mission locale? Vous nous en avez parlé dans le tout début de conversation.
Un accompagnement?
J'ai pas cette personne qui nous envoie le mail, pas d'accompagnement pour faire des stages dans différents secteurs. Je pense qu'elle doit vouloir dire par là qu'en faisant des stages dans différents secteurs, vous pouvez peut-être voir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas.
Bah, j'en discute avec mon conseiller, oui.
Oui, donc vous avez déjà quelqu'un qui vous oriente là-dessus. Je ne suis pas convaincue que cette personne-là soit le coach auquel je pense. Moi, je pense à des coachs de vie qui vous aident à trouver votre chemin en fonction de qui vous êtes et qui vous aident aussi à faire sortir le meilleur de vous-même. Pour vous aider à avancer, à trouver le chemin qui vous convient et à avancer.
Bah, réussir à.
C'est à mi-chemin,
à trouver les choses à faire, quoi.
Et vous, votre relation avec vos parents, vous avez mentionné au départ que ça n'avait pas l'air d'être extrêmement.
Donc, pour dire les choses, voilà, ils habitent dans une autre région, à plusieurs centaines de kilomètres, et ils payent le loyer. Et du coup, ça fait depuis très longtemps que ce n'est plus que ce n'est plus vivable et tout. On n'a pas le...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je leur en veux sur beaucoup de choses, sur un manque de dialogue, énormément de choses, mais je me dis que plus j'arriverai à faire de toute façon ce que vous avez dit aussi, à 21 ans, à faire mes propres choix et tout, plus... Voilà, il faut que je me coupe d'eux, quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça me mine, parce que du coup, ça fait 3 ans que je n'arrive pas à faire ça sur quoi que ce soit. C'est toujours eux qui payent mon loyer et tout. Enfin bon. Après, là, je les vois plus. Là, la dernière fois que j'ai vu mon père, c'était il y a un peu plus d'un an, quand il est venu pour signer le bail. Donc, voilà. Mais après, voilà, quand je les ai au téléphone, des fois, ça part dans des très grosses engueulades et tout. Et donc après, je suis dans un état pas possible et tout. Et voilà, alors que si je vivais pas par mes propres moyens et tout, je ferais pas appel à eux pour des choses de l'ordre matériel et tout, quoi.
Ça, c'est évident, mais il faut revenir à la source du problème. Pour arriver à être indépendant et trouver un travail, il faut que vous soyez plus sûr de vous, que vous arriviez à trouver quelque chose qui convienne à votre personnalité. Effectivement, s'orienter vers la vente quand on a une personnalité comme la vôtre, c'est complètement antinomique, ça coince. Ça vous met mal à l'aise, on vous recrute pas, c'est un cercle vicieux. Mais je suis persuadée qu'il y a des tas d'orientations qui peuvent vous convenir aussi.
Bah dans un premier temps, oui, en espérant que ça puisse aboutir à quelque chose. Là, travailler, voilà, faire de la garde d'animaux, là, donc ça serait des petits travaux.
Bon, hein. Ça, c'est pas un métier, c'est des petits jobs.
Oui, mais après, si j'arrive à faire quelque chose, beaucoup de missions, comme on dit, à réussir à faire plus équivalent de 35 heures par semaine, après, en espérant que ce soit possible... Ça pourrait faire office.
Alors,
travail,
je vais vous secouer un peu, Étienne. Arrêtez d'espérer que ce soit possible. Faites en sorte que ça le devienne.
Mmh. Ouais, oui, il faudra que j'en discute avec elle, hein, au prochain rendez-vous.
Faites en sorte que ça le devienne en trouvant quelqu'un qui vous drive, qui vous coach un peu, qui vous apprend à sortir de vous-même et à être capable aussi d'affronter la vie et les gens. Mmh. D'accord ? Quand est-ce que vous la revoyez, cette personne dont vous me parlez, là, qui vous aide dans cette mission?
Jeudi.
D'accord. Demandez-lui ce qu'elle en pense, qu'elle vous aide à trouver un vrai coach de vie pendant un petit moment pour vous apprendre à... C'est ce que je vous disais, à être le meilleur de vous-même. À faire ressortir des bonnes choses en vous qui vont vous permettre d'avancer. Et en avançant, eh bien, vous allez forcément être capable de trouver un boulot, d'affronter un entretien d'embauche, de trouver une place. Et là, vous deviendrez financièrement autonome. Et j'ai l'impression que vous serez mieux dans votre peau et dans votre vie. Hein.
Mais il faudrait aussi que je trouve de quoi travailler tout de suite pour ensuite aller mieux. Quoi.
Oui, mais c'est pour ça que je vous disais, même ces petits boulots-là, ça a l'air compliqué pour vous. Aller frapper chez un voisin en disant « je peux vous rendre des services rémunérés », vous avez du mal à le faire. Donc la première chose à faire, c'est d'arriver à vous libérer de cette extrême timidité ou de cette peur. Et ça ne peut se faire rapidement qu'avec un coach. Si vous ne voulez pas faire une thérapie qui soit trop longue, ou alors avec des thérapies courtes ou avec un coach, pour vous libérer de ça, et arriver ensuite à aller vers les autres, à vous ouvrir tout simplement. Parce qu'on ne viendra pas vous chercher, vous savez qu'on est dans un monde où il faut se battre. Hein. Ce n'est pas les autres qui viendront vous chercher, vous proposer des solutions, ou des boulots. À moins d'un miracle, mais c'est à vous d'aller le chercher ce boulot, d'aller à la rencontre des gens, de parler de vous, de vous présenter, de dire ce que vous voulez.
Et puis le problème avec la mission locale en ce moment, c'est que du coup les rendez-vous sont très comment dire
espacés.
Oui, espacés, voilà. Donc voilà, ça n'arrive pas à avancer et tout. Donc
c'est pour ça que je vous disais que je pense que cette personne est bien, mais c'est pas à ça que je pensais. Je pensais vraiment à un coach, quelqu'un qui pourrait vous aider.
Par contre, pour parler de l'aspect financier, si c'est pas, faudrait que je demande à la mission locale de. Ils peuvent m'aider là-dessus.
Hein. Même si c'est que trois rendez-vous. Oui, si vous voyez quelqu'un pendant un mois, trois ou quatre fois, ça peut peut-être suffire à débloquer quelque chose. Et il y a peut-être des aides après, je ne sais pas exactement dans quel contexte.
Après, c'est comme la musique aussi, du coup.
Oui, mais là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, bon, la musique ne va pas vous aider à trouver un boulot rapidement.
Non, mais
à gagner des sous rapidement.
Tout,
par rapport à ?
Aux aides.
C'est-à-dire ?
Bah, pareil pour le coach, là, de ce qu'on a dit.
Non mais demander de l'aide financière pour vous faire coacher, ça a un sens. Demander de l'aide financière pour faire de la musique, j'ai un peu de mal à comprendre là pour le coup. Là tout de suite, urgence, c'est pas que vous fassiez plaisir en faisant de la musique, c'est que vous arriviez à devenir autonome et à trouver des petits jobs qui vont vous permettre d'avoir de l'argent, un petit peu, pour commencer. C'est le premier pas vers la liberté de gagner un peu de sous soi-même. Je vous sens pas super motivé.
Je ressasse ça depuis très longtemps. Donc.
Ça quoi, pardon, j'ai pas entendu.
Je ressasse, pardon.
Vous ressassez. Et si au lieu de vous retourner sans cesse vers le passé, vous tournez vers l'avenir pour le construire. À 21 ans, vous avez la vie devant
mais
vous.
Je n'arrive pas là avec la mission locale. Je pensais que ça pouvait se faire plus rapidement et voilà, donc ça démotive. Après, je n'arrive pas, il y a des choses qui échouent. Voilà, vous dites que voilà, donc pour la musique, c'est pas quelque chose qui peut m'aider sur certains points, mais voilà, le fait que ça se soit passé, c'est aussi ça me démotive. Et donc après, les mois passent et voilà, donc sur tous les aspects, voilà, les choses.
Il faut réenclencher quelque chose de positif. Il y a Michel qui envoie un SMS en disant pourquoi vous demandez pas à Pôle Emploi. Enfin, j'imagine que vous êtes déjà passé par cette case-là.
Oui, bah pour le travail et tout, donc. Après, ça se fait tellement automatiquement, donc après, faut s'enregistrer. Enfin, ouais, faut réussir à, voilà, faut insister. Ouais,
Ouais, je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à vous remettre en marche, à rallumer le moteur et à avancer. Allez voir aussi dans les centres sociaux. Vous savez, il y a des psys qui sont en consultation gratuite.
Oui, mais après, voilà, comme vous avez dit, voilà, ce serait plus un coach de vie qu'un psychologue.
Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Le psychologue, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui enclenche sur l'aspect professionnel et social, pas seulement sur l'aspect psychologique. Quoi.
Mmh. Oui, mais beaucoup de choses sont liées. Je pense qu'il y a dans votre histoire de vie pas mal de choses à travailler. Là, j'ai bien entendu qu'il y a des choses dont vous ne parlez pas qui sont des nœuds à l'origine de tout ça. Mais je comprends que dans l'urgence, effectivement... Je pense que la première urgence, c'est un coach qui vous soutienne, qui vous bouscule un petit peu dans le bon sens pour vous amener dans la bonne direction. Parce que c'est maintenant que les choix de vie se font. À 21 ans, c'est important. De ne pas subir, mais de choisir ce que vous voulez être et devenir.
J'arrive pas. J'ai pas les moyens, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'optimisme, tout. Il y a tout le temps un frein sur tous les aspects qui se met en route. Et du coup, là, il y a tout le temps un obstacle. Et voilà, quoi.
Alors là, ça s'appelle un fond dépressionnaire et c'est pour ça que vous voir un psy. Parce que si vous voyez tout en noir et que vous n'avez envie de rien...
On peut dire ça aussi, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui se bloque. Je vais toquer à une porte et je pense que ça me plaît. Et puis finalement, voilà, quand vous avez parlé du théâtre et tout, j'avais fait ça pendant un an, il y a quelques années. Et donc, au début, voilà, je suis très... je me dis, voilà, je vais pouvoir commencer quelque chose. Puis après, je me rends compte que ce n'est plus le cas. Enfin, je ne sais plus où je voulais en venir.
Le problème, c'est quand on est dans un cercle négatif, on attire le négatif. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, il va falloir appuyer aussi sur le bouton stop, arrêter de regarder derrière et remettre un peu de positif dans tout ça, des projets, des envies. Vous avez un bon médecin généraliste ?
Non, je n'en ai pas.
Ça serait important aussi de voir avec lui si tout va bien physiquement, si vous ne manquez pas de quelque chose, si effectivement lui peut percevoir quelque chose de l'ordre d'un début de dépression. Parce que le côté « j'ai envie de rien faire ».
J'imagine bien que je ne sais pas si je suis vraiment dans un cercle dépressif, mais j'ai beaucoup d'angoisse sur beaucoup de choses, car comme les choses n'avancent pas et tout, ça me met dans un état très, très négatif, quoi. Mais voilà, les choses... je vais voir quelqu'un, donc il y a un prochain rendez-vous dans quelques jours. C'est vrai qu'il faut que j'en discute, ensuite.
C'est qu'elle vous connaît bien, elle est au niveau local, elle vous suit.
Non, je l'ai vu qu'une seule fois.
Ah bon?
Après, je l'avais vu, c'était la deuxième fois, parce que du coup, on s'était vu une première fois avec mon conseiller. Donc voilà. Donc je pense que là, le problème, c'est qu'avec la mission locale, j'ai l'impression que ça va commencer à fortement diminuer les rendez-vous et tout. Donc, je pense que je vais plus la voir, elle, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que le reste.
Et demandez-lui aussi, elle, ce qu'elle en pense, vers qui elle pourrait vous orienter.
Oui.
En face à face.
En espérant qu'elle puisse trouver les choses et tout. Car avec la mission locale, il y a des choses qui ne se sont pas faites, du coup.
Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il se fasse et qui ne s'est pas fait, par exemple?
Des activités là, qu'on n'a pas réussi à trouver, le travail voilà, qu'on n'a pas réussi à trouver aussi.
Il y a Cécile qui nous dit vous pourriez faire un service civique qui est rémunéré.
Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais.
Il y a un site internet qui permet de choisir ça, dit-elle.
Ouais. Ouais, je connais bien, là j'ai participé à plusieurs réunions. Mais en octobre, là j'avais pensé, là, j'avais participé à une réunion, on était une dizaine de jeunes. Et il y avait une fille de mon âge là, qui avait parlé là, de faire un projet libre sur le harcèlement scolaire. Et moi, donc, je pensais à faire autre chose. Là, c'était sur le recyclage. Et donc, du coup, en l'entendant et tout, je voulais participer avec elle. Donc, après, je suis revenu là, à une autre réunion. Et on m'a dit que cette fille n'avait pas donné signe de vie. Et donc, je pensais à le faire tout seul. Et en gros, on m'a dit à ces prochains rendez-vous que mon projet n'était pas du tout clairement défini. Et que du coup, pour l'instant, parce que ça aurait pu se faire à partir de décembre, je crois, ou fin novembre. Et du coup, comme c'est... En plus, ça s'est fait en 2 semaines, car du coup, le projet, il fallait qu'il soit concrétisé en 2 semaines. Et moi, je venais tout juste de participer à la réunion. Et comme ils n'étaient pas convaincus que moi, je le suis, en fait, ça n'a pas abouti.
On en revient au même. Je pense que vraiment, vous avez besoin d'être encadré et cadré et donc coaché. Quelqu'un qui vous pousse, qui vous tienne et qui vous ouvre des chemins. Il faudrait vraiment que vous arriviez à trouver quelqu'un qui puisse vous aider, d'une manière ou d'une autre. Parce que là, tout seul, j'ai l'impression que vous tournez en boucle. C'est un peu fouillis dans votre tête, donc c'est un peu fouillis dans votre vie aussi. Et puis, vous vous êtes découragé. Vous êtes dans un cercle de « j'ai pas envie, j'y arriverai pas, de toute façon, ça marche pas ». C'est ça aussi qui se passe. Hein.
Je sais pas si c'est « j'ai pas envie », mais c'est plutôt « le monde est peut-être contre moi », en fait. Je dirais plutôt ça.
Je ne pense pas que le monde soit contre vous, mais forcément, là, vous êtes dans un cercle négatif. Et malheureusement, le négatif attire le négatif. Et pour en sortir de là, il faut un déclic. C'est pour ça que ça serait bien que vous trouviez quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une assistante sociale, une thérapeute, un coach, mais quelqu'un qui vous donne une sorte d'impulsion positive pour vous aider à remonter tout ça. Il peut suffire de pas grand-chose, vous savez. Une rencontre, un bon conseil, une orientation professionnelle qui vous convient, quelqu'un qui vous donne un coup de main sur quelque chose de...
Effectivement, l'orientation professionnelle, oui. Ça fait depuis longtemps que je mise là-dessus et le fait que ça ne se passe pas, que je n'arrive pas à trouver des choses à faire et tout, ça me plombe de plus en plus.
Non, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a ce blocage, cette timidité, ce relationnel difficile. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler là-dessus. Est-ce que vous avez déjà je ne sais pas comment vous dire ça. Est-ce qu'en dehors de vos parents, il y a des gens avec qui vous pouvez vous confier? À qui vous pouvez vous confier? Personne? Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de...
La famille, non. Chacun a fait ses choses de son côté depuis. Et puis là où je suis, comme je n'ai pas réussi à créer du lien social, on va dire. Pour l'instant, non, je n'ai pas de base.
Est-ce que vous arrivez à avoir des relations amicales avec des garçons de votre âge?
Non, je ne peux pas dire que j'arrive, parce que ça fait longtemps, depuis le lycée, en gros, qu'il n'y a pas de relations sur le long terme amicales.
Vous connaissez l'association qui s'appelle Phare, comme un phare?
Non.
Vous pourriez aller voir sur Internet, associationphare.org.
C'est écrit comme un phare.
Comme un phare, phare.org, qui s'occupe beaucoup des jeunes qui sont en situation de mal-être. Vous trouverez leur numéro de téléphone sur Internet. Ils s'occupent beaucoup des jeunes adultes qui sont dans des situations de mal-être. Ils peuvent aussi vous écouter, vous conseiller, vous orienter. Ça peut être aussi une piste. Et puis peut-être chercher, même au sein de la NPE, est-ce qu'il n'y a pas justement des réunions d'orientation, de choix? Vous savez, des mini-stages sur une demi-journée pour arriver à trouver sa bonne orientation. Ils ne font pas des choses comme ça?
Je pense que si,
oui.
L'NPE, le Pôle emploi, donc...
On dit plus, NPE, ouais. On dit Pôle emploi, mais non, ouais. Oui.
Non, enfin voilà, c'est pour être sûr. J'ai été inscrit il y a un an. Et du coup, c'est eux qui m'ont orienté à la mission locale parce que je n'étais pas inscrit chez eux en premier. Le Pôle emploi, ça s'est arrêté quand je suis arrivé à la mission locale. Mais c'est vrai que là, c'est très fouillé et tout.
Oui, c'est pour ça que je pense que d'une manière ou d'une autre, la première urgence, c'est de trouver quelqu'un qui vous aide à structurer tout ça.
Bah oui.
Et ça va vous rendre plus fort. Quand les choses sont plus claires, vous allez probablement vous sentir mieux et avancer la tête plus haute.
Là aussi, j'aurais vraiment besoin là, de faire les activités là, que j'aimerais faire.
J'allais vous parler de sport, mais tout à l'heure, vous m'avez dit je ne veux pas vous dire ce que c'est. Donc, je n'arrive pas à comprendre ce qui vous empêche de faire des activités, parce que ça, ce n'est pas financier.
Pour la musique, le problème, parce que du coup, là, ça fait depuis octobre que je pense à ça. Et le fait que ce ne soit pas fait, ça aussi, ça me mine un peu. Et la personne avec qui j'avais discuté là, sur. Pour une association, quand cette personne m'a dit qu'il me faudrait cet ordi à plus de 1000 euros, je me dis, mais du coup, si je n'ai pas ça, la musique, ça ne peut pas se faire. Ça se limite à ça, je ne sais pas. Donc pour cet aspect-là, il y a ce blocage-là. Et donc, professionnel, il y a le... Enfin bon, là, on en revient à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Voilà.
Et le sport?
Le sport, j'essaye quelque chose depuis une semaine.
Vous avez commencé quelque chose quand même.
Après, j'ai déjà essayé d'autres choses. Sinon, il y a aussi la gym, là, c'est un autre sport. Donc, j'ai participé à un cours d'essai en novembre. Enfin, bon. Après, ça, c'est deux fois par semaine, mais voilà.
C'est un peu compliqué là pour moi de vous aider, Étienne. Je vous avoue que tout ça est un peu... un peu fouillis. C'est vrai que ça part dans plein de directions. Moi, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, à part vous dire vraiment de trouver quelqu'un, peut-être via la mission locale. Peut-être.
Mais j'ai l'impression que les gens, enfin, comme le conseil que je vois à mission locale, les gens ils disent souvent du coup qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas les compétences, c'est pas les compétences, c'est ils n'ont pas le pouvoir, on va dire, d'agir sur telle chose, ils n'ont pas la qualification ou ils n'ont pas la décision, ils peuvent pas prendre la décision d'eux-mêmes pour telle chose et tout, donc après faut aller voir pour chez quelqu'un d'autre et tout, donc.
Donc,
sur des choses, là, la mission locale, je ne sais pas si j'ai un exemple précis en tête, mais pour certaines choses, ça peut pas se faire parce que voilà, ils n'ont pas.
Donc, je pense que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé le bon interlocuteur, la bonne personne pour vous aider.
Oui.
Mais à un moment donné, j'aurais envie de vous dire. Aidez-vous vous-même et les autres vous aideront aussi. Hein. Faites la moitié du chemin.
Moi, ouais, j'essaie de faire ça de temps à autre, mais des fois, j'ai l'impression soit je me trompe tout le temps, soit je sais pas.
C'est pour ça que j'en reviens à vous dire, trouvez un thérapeute ou un coach qui vous aide à travailler sur ce qui coince chez vous. Débloquez ce qui bloque. Parce que ce qui bloque, ça bloque dans tous les domaines. Les relations, le travail, les activités... Il y a des nœuds qui ne sont pas défaits chez vous. Et on dirait que vous prenez les pieds dedans à chaque fois que vous avez envie d'avancer vers quelque chose.
Après, j'en reviens aussi à autre chose. Là, ça peut peut-être être une métaphore. Et j'aimerais aussi déménager, là, aller dans un autre studio. Et donc, comme pour tout le monde, ce que 90% des bailleurs demandent, c'est trois fois le loyer.
Des garanties. Oui, enfin, c'est votre père qui paye, donc c'est les garanties de votre père.
Mais justement, c'est que comme moi, là, je n'ai pas ni un loyer... Enfin, un salaire de trois fois le loyer, ni CDI, ni le statut étudiant, je peux pas accéder à telle chose et tout, quoi.
Pourquoi vous voulez changer ?
Là, c'est l'aspect pratique. Après, le quartier aussi, je suis en centre-ville, donc ça m'aide pas pour me sentir à l'aise, parce que des fois, je me retrouve directement exposé à... sur un boulevard et tout, donc des fois si je dois pour aller à tel endroit alors que ça se trouve à 200 mètres et que je dois passer par un boulevard, ça me met dans une situation anxiogène, je crois qu'on dit ça comme ça, et donc ça aussi pouvoir être dans un endroit plus calme, voilà.
Bon, Étienne, je pense que vous avez vraiment besoin d'aide et ça tombe bien, on va s'arrêter là, je vais vous repasser Amandine, il y a quelqu'un qui vient d'appeler pour vous qui voudrait vous coacher.
D'accord.
On va vous mettre en relation tout de suite, d'accord ?
Du coup, j'ai été assez clair, ça a été la conversation.
Oui. Merci de votre appel, Étienne. Je vous passe tout de suite à Amandine qui prend le relais et qui va vous mettre en relation avec quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et il me reste juste le temps de faire la connaissance de Jeanne. Bonsoir à vous, Jeanne.
Allô, bonjour Sabine.
Merci, merci de votre patience.
C'est pas grave, la jeunesse a besoin d'être aidée peut-être.
Dites-moi alors un petit peu. Merci pour ce joli sourire et cette jolie voix en guise de bonsoir. C'est très agréable.
Bah, on essaye.
Alors racontez-moi.
Je vous appelle, je vais faire rapide parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Bon voilà, j'ai 81 ans, mon mari 86, marié depuis 60 ans, enfin bon. Maintenant nous avons tous les deux du problème de santé, disons, et nous habitons dans un appartement qui est bien, mais qui est au deuxième étage, donc. Mon mari peut maintenant marcher avec une canne, c'est pas évident. Moi, je marche, j'ai été opérée du cœur au début de l'année, je n'avais jamais rien eu de ma vie, et puis là, bon, c'est tombé comme ça. Mmh. Et donc là, moi, je me sens pas non plus très fiable, si vous voulez.
Oui, bien sûr.
Et donc là, mes enfants, mon propre femme, mes enfants, on est une famille unie, j'ai deux enfants, quatre petits-enfants, bon, tout se passe bien. Mais les enfants, je sens qu'ils voudraient qu'on déménage. En fait, on a parlé. Et mon mari, par contre, moi, j'en ai parlé de ça il y a 20 ans. Et il m'a toujours dit non, 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 ça sert à rien, de toute façon, vous ferez ça quand je serai mort, vous voyez le côté négatif de la personne. Alors donc, je me demande comment on peut présenter ça. Et je sens que la responsabilité, enfin la décision, la décision viendra forcément que de moi. Je ne peux pas demander à mon fils de prendre la décision pour nous. Et je sais que mon mari ne va pas la prendre.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? C'est le fait que vous êtes au deuxième étage sans ascenseur, c'est ça ?
Oui. Bah c'est, oui, parce que le reste, bon, bah les courses, tout ça, bon, ça coûte un peu, mais on peut faire quand même. On peut trouver quelqu'un pour vous aider. Mais monter les escaliers, on ne va pas trouver quelqu'un qui va nous monter les escaliers.
Et forcément, ça risque de ne pas aller en s'arrangeant au fil des ans. Donc ça ne va pas solutionner tout seul, cette histoire.
Donc,
dans le fond de votre cœur, est-ce que vous avez vraiment envie de partir ?
Écoutez, je l'ai eu, oui. Mais maintenant que le problème se pose, je vous avoue que je m'en sens pas tellement le courage de recommencer encore quelque chose, aller vers un avenir qui ne sera pas un véritable avenir quand même. Parce que c'est là où moi je me bloque maintenant, et puis bon, j'ose pas trop de leur parler, parce que enfin, je lui en ai parlé quand même. Mais il dit toujours non, il me dit qu'il va mourir dans un an. Alors,
c'est compliqué, ça.
Oui, mais il est très compliqué, les casaniers, les conservateurs, c'est très spécial.
Mais lui, il n'a pas de problème à vivre comme ça ? Il n'a pas de peur de tomber, d'angoisse au quotidien ?
Il en a un peu, oui, quand même. Mais bon, il arrive quand même, il va faire les courses, je le laisse faire, parce que sinon il ne fait que de regarder la télé. Bon, nous on se chipote un peu et beaucoup même, parce qu'il me dit « Pourquoi tu ne regardes pas la télé avec moi ?» Bon, maintenant moi je suis celle qui fait tourner la maison, si vous voulez. Alors donc, moi j'ai autre chose à faire aussi, puis je préfère la radio, je n'aime pas la télé. Bon, donc il m'en veut pour certaines choses, et c'est un peu ce qui m'a rendu malade l'année dernière. Il était assez désagréable, parce que quand il est têtu, quand il ne veut pas, il est hard. Alors, bon,
Je suis en train de me dire, il y a quelque chose que vous pourriez peut-être faire, c'est vous poser calmement tous les deux et faire une liste des pour et des contre.
Oui.
Tout ce qu'il y a de positif dans votre vie actuelle dans cet appartement, objectivement, et tout ce qui est tout ce qui est négatif. Parce que quelquefois, le fait, déjà ça rétablit un dialogue, le fait de l'écrire, de faire des listes, on voit les choses différemment. Peut-être que lui peut prendre conscience de certaines choses, et vous aussi, en faisant simplement une liste, les pour, les contre. Qu'est-ce qui nous convient dans cet appartement ? Ça peut être les habitudes aussi, pas forcément que matériel, hein. On peut parler aussi de choses morales. Mes habitudes, mes voisins, je ne sais pas, je me sens bien là, ou à l'inverse, je me sens en danger. Enfin voilà, toutes les choses positives et toutes les choses négatives. Est-ce que vous avez déjà fait ça ? Non, pas encore ?
Non. Maintenant, parce que ça fait depuis le début de l'année là, qu'on commence à parler de ça. Et en plus, mon fils, qui est celui qui m'en a parlé, lui, il pense déménager aussi, parce qu'ils vont être en retraite. Et ils ont leurs moyens. Ils ont une petite maison qui est très mignonne et très bien, mais ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir la maison. Ils veulent partir un peu en province pour acheter quelque chose de moins cher.
Et la maison, pour vous, ça ne conviendrait pas ?
Pas vraiment, parce qu'il y a des escaliers aussi. Ils ont des chambres en haut. Non, c'est pas facile chez eux. Il y a des escaliers. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je lui dis, écoute, fais pas la bêtise que nous on a fait. Si tu sens que ça va pas,
prévoir à l'avance. Donc je vous dis, c'est important, parce que là, ce qui se passe, c'est que vous pensez à des choses dans votre coin, votre mari pense à d'autres choses. Vos enfants aussi, les choses... quand vous en parlez avec votre mari, vous me dites qu'il se braque assez facilement, qu'il a un caractère pas évident. Et donc, se poser comme ça, avec une liste, en disant, voilà, si tu veux bien, faisons juste sincèrement une liste de ce qui nous plaît et de ce qui ne nous plaît pas, de ce qui est réaliste, positif ou de ce qui est négatif. Et puis, projetez-vous. Comment ça serait dans un an, si je reste ici ? Comment ce serait dans 5 ans, si je reste ici ? Sans mettre d'émotion là-dedans, simplement en étant réaliste. Demandez-lui sincèrement, dis-moi, comment toi tu te vois dans... Alors, évidemment, si sa réponse est dans un an, je meurs, on ne va pas beaucoup avancer.
Bah, c'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses, jusqu'à quel moment tu penses qu'on peut rester ici ? Oh, un an et demi, après je suis mort.
Oui, c'est un chantage pas très sympa, ça. Hein.
Non, non, il n'est pas sympa. Et puis, je lui en veux parce qu'en fait, pour être arrivé là, et moi, j'ai cédé, bon, parce que je n'ai pas mis la main assez forte pour, quand on en avait parlé il y a une vingtaine d'années. Et puis, alors, il me dit, mais tu ne m'as jamais dit ça. Il me raconte.
Ou puis, dans ces cas-là, dis-tu que c'est très égoïste comme réponse, parce que même si lui meurt dans un an, vous serez toujours là et vous serez vous serez pas bien dans cet appartement. En tout cas, si c'est compliqué à vivre pour vous, donc c'est pas recevable comme réponse. Vous pouvez lui dire que c'est pas.
Non, hein. Je sais bien, mais il me répond toujours des choses comme ça. Il est conservateur, il garde des tas de choses. De toute façon, on a un grand appartement, ça peut encore se faire. Mais quand je lui dis, moi, ça m'énerve, moi, je me sens bien quand c'est dépouillé. Lui, il se sent pas bien. Il se sent bien quand il a tous ses fouillés autour de lui.
Ah, c'est aussi une forme d'angoisse hein, d'avoir besoin de remplir le vide à ce point-là.
Bah oui,
donc,
je crois.
Peut-être ce qu'il faut... Oui, dites-moi.
Je crois qu'il est maniaco-dépressif, en fin de compte. Parce qu'il est très maniaque, il fait tout à la même heure, il marque tout, il écrit tout,
voilà.
Les dates,
et ben voilà. Et c'est pour ça que je vous oriente vers l'idée de la liste, parce que c'est quelque chose qui peut le rassurer. Et je pense qu'en faisant la liste des choses positives qu'il y aurait dans l'idée de changer, de partir vers un endroit qui est plus facile à vivre pour vous, ça peut le rassurer. C'est quelqu'un qui probablement a besoin d'être rassuré.
Ah oui, ça, certainement. Bon, ben, peut-être que moi, je ne suis pas celle qui rassure, je ne sais pas. Mais bon, je vous dis, depuis il y a 20 ans, je lui ai dit, et on avait même cherché, il voulait un pavillon à l'époque. J'écoute un pavillon, prendre un pavillon pour la retraite, ça ne me paraît pas tellement évident. Il ne sait pas faire le jardin. Il sait regarder la télé, c'était un très bon père de famille. Mais mes enfants sont très attachés à leur père. Donc il a été un très bon père de famille, on les aide encore beaucoup financièrement. Mais bon, là, il faut quand même ça. Si on veut partir, il faut vendre l'appartement, il faut rechercher autre chose. Pourtant, je suis directive de nature. Mais maintenant, là, depuis que j'étais malade.
Mais oui, c'est normal, vous faites
ça. Je ne me sens pas pareil, je ne suis plus du tout la même.
Ben, bien sûr.
Alors bon.
Mais c'est pour ça que je vous dis, faites ça déjà dans un premier temps. Posez-vous calmement tous les deux. Posez sur un papier tous les pour, tous les contre. Projetez-vous dans un an, dans cinq ans. Et rassurez-le.
D'accord.
Et ça devrait vous aider à vous orienter vers une solution qui serait pour vous la plus réaliste et la plus intéressante pour les années qui viennent. Que vous soyez bien, que vous soyez en sécurité chez vous. C'est vraiment c'est important.
Bah oui,
mais effectivement, s'il se braque, il faut commencer par le rassurer. Et je pense que le fait de faire des listes, c'est quelque chose qui peut rassurer une personnalité comme celle de votre mari. Sans émotion,
d'accord.
Sans engueulade, sans menace, sans tout ça. Simplement disons, voilà, concrètement, on se pose, on fait le pour et le contre, et on réfléchit posément.
D'accord.
Hein ? Je vous souhaite le meilleur, Jeanne. Prenez bien soin de vous.
Allez, merci beaucoup à vous.
Et je vous embrasse. Merci.
Bonne soirée.
Et oui, l'émission se termine déjà. Nous arrivons à presque une heure du matin. Merci à vous, Jeanne. Merci à Étienne. Merci à Aurore. Un énorme merci à tous ceux qui ont participé par SMS. Ce soir, vous avez été nombreux. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h pour de nouvelles confidences. Et je vous quitte avec cette petite citation. Souvent, ce qui nous semble être la fin est en fait un nouveau départ. Passez une bonne nuit et à demain.